Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be.
Et vous avez bien raison, vous êtes sur Radio Judaïka. Il est précisément 20h et c'est l'heure de l'épisode 15 dont joue la prolongation.
À la fin, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Pouce, vous êtes un salaud.
Eh bien, bonsoir à toutes, à tous et à tous les autres qui nous écoutent. On joue la prolongation, on est ensemble jusqu'à 21h30, 90 minutes, le temps d'un match de foot. Et puis, avec un petit salut amical et confraternel, en un mot, j'insiste bien, à Sam, qui n'est pas là ce soir, Samuel Cujas, et on l'embrasse bien fort, on pense à lui. Et ce soir, eh bien, c'est pour lui qu'on joue, comme qui dirait. Et quand je dis « on », c'est d'abord avec... Ah oui... Ils ont connu la honte absolue ce week-end. Ils ont été sortis par une P4, si j'ai bien lu. C'est bien de Marseille, l'Olympique de Marseille, dont il s'agit. Bonsoir Blaise Van der Linden.
Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Et j'aimerais qu'on n'en parle pas trop ce soir, si ça vous dérange pas.
Ok, on va voir ce qu'on va voir. De toute façon, dans un instant, on aura notre invité et on parlera absolument voilà. Pas de l'Olympique de Marseille, c'est sûr. Ensuite, eh bien, ça souffle chaud, ça souffle froid, et tout le monde s'enrhume, finalement. Un habitué de ce studio, malheureusement un habitué des matchs nuls. Et comme il l'a très bien écrit sur Facebook hier, après 13 matchs nuls, on peut le dire, on est nuls. Bonsoir Henri Daniel.
Bonsoir à tous. Moi, je me suis mis dedans, hein. On est nuls.
Tout à fait. Il faut être supporter de la victoire comme de la défaite, bien sûr.
Ou du nul.
Ou du nul.
Ou du nul, tout à fait. Et puis, last but not least, on va faire 100 km d'un coup d'un seul. Et on retrouve l'autre déception de l'année, de la saison. Ah non, j'ai pas encore allumé le micro. Non, pas encore. Bonsoir Steve Gris.
Bonsoir à tout le monde.
Alors, les rouches... Voilà, on va dire ça comme ça, hein. On va s'arrêter
on
là.
On souffre, hein.
Absolument. Alors, on va évoquer plein de choses ce soir, notamment la 30e journée de Jupiler Pro League. On va parler de la Champions League, on va parler de la Croquis Cup aussi. Et puis, avant cela, on va accueillir notre invité qui nous fait la gentillesse, le plaisir et l'honneur d'être avec nous. Vous allez voir, on va parler pour une fois, parce que soit l'Olympique de Marseille, Anderlecht ou le Standard, sortez vos mouchoirs, mais on va être en pleine bourre avec une équipe qui est elle-même en pleine bourre et qui est en train de survoler la D1B, comme on l'appelle maintenant. Je veux bien sûr parler de l'Union Saint-Gilloise et nous avons le plaisir d'accueillir ici même son entraîneur, on va dire fétiche maintenant, parce qu'à mon avis il y aura une statue du côté du Stade Marine bientôt à son effigie. Bonsoir Félix Fiamazzou.
Bonsoir.
Et merci mille fois d'avoir accepté cette invitation. On est ensemble pour un bon petit quart d'heure. Alors, Felice, une première question par ces temps Covid. Comment allez-vous? Parce que moi, je suis supporter du club de Bruges et j'ai souffert l'enfer depuis 10 jours. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vos joueurs vont bien?
C'est gentil. Jusqu'à présent, on a la chance, en ce qui me concerne, ma famille, évidemment, le groupe de joueurs, de se porter bien. On est tout doucement en train de passer à travers cette situation sanitaire catastrophique. J'espère que voilà, ça sera le cas jusqu'au bout, en tout cas quand tout ça sera évaporé, je vais dire.
C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Alors je le disais, vous êtes en train, vous et votre équipe, de survoler cette D1B et on va dire presque aux deux tiers, un petit peu plus que de deux tiers, et le championnat semble déjà joué. Je sais que les entraîneurs par définition sont un peu superstitieux, mais enfin, faudrait vraiment un tsunami accompagné d'un tremblement de terre et d'une invasion d'extraterrestres pour vous priver quand même du Graal, comme qui dirait. Alors comment se sent un entraîneur sur le point d'atteindre l'objectif majeur qu'il s'est fixé, Felice?
Voilà, vous venez en fait un peu tout résumer. Effectivement, en tant qu'entraîneur, je suis encore mitigé. Comme vous dites, il va falloir une grosse catastrophe ou alors une grosse erreur professionnelle de la part de tout le monde au club pour ne pas accéder à cette division 1. Mais tant que c'est pas fait mathématiquement, j'ai pas envie de me réjouir. Après. Évidemment que je suis dans une situation, nous sommes dans une situation, les joueurs, le staff, le club, les supporters et moi-même dans une situation très positive, avec beaucoup d'énergie positive. Et voilà, on aimerait réussir cet objectif le plus tôt possible, bien évidemment.
Ben, le plus tôt possible, en principe, ce sera, si tout va bien, si vous parvenez à remporter le derby de la Zwans, comme on dit ici à Bruxelles, du côté de Molenbeek, ce serait, double bonheur pour vous que d'aller vous être sacré champion du côté de Molenbeek, non ?
Ben, en tout cas, ça sera un double bonheur certainement pour nos supporters qui y tiennent énormément à ce derby. Hein. Tout le monde connaît l'histoire et cette rivalité entre Molenbeek et l'Union Saint-Gilloise. Et bien évidemment que je me rallie à tous nos supporters parce que ça leur ferait doublement plaisir. Après, moi, en tant qu'entraîneur, mon premier objectif, évidemment, c'est d'être champion, d'accéder à cette division 1, et j'ai pas spécialement envie de mettre de la pression outre mesure à mes joueurs. Il nous reste 6 matchs, 18 points en jeu, et on en a besoin de 2. Voilà, j'espère que ça sera samedi pour mes joueurs, pour le club et certainement pour nos supporters qui attendent ça depuis très longtemps avec impatience. J'espère qu'on fera le match qu'il faut, hein, bien évidemment, pour pouvoir le gagner et enfin accéder à cette division 1.
Bien justement, vous me devancez cette fois-ci, c'est vous qui résumez toutes mes questions à la limite. J'ai envie de dire, Felice, vous parliez justement et que vous êtes conscient de ce derby bruxellois. Alors justement, vous qui êtes né à Charleroi, qui avez l'ADN Carolo, j'ai envie de dire, dans le sang, est-ce que vous vous êtes directement imprégné de cette rivalité ancestrale, mais toujours bon enfant, je dirais, entre le Dering et l'Union Saint-Gilloise?
Oui, je m'y suis imprégné comme je l'avais fait à mon époque avec Charleroi et ce fameux derby avec le Standard. Je pense que à partir du moment où vous avez la chance d'être dans un club, quel qu'il soit, vous devez répondre aux couleurs, vous devez répondre à l'enthousiasme, vous devez répondre aux valeurs du club. Et les valeurs de l'Union sont celles-là, et je connais aujourd'hui cette grande rivalité qu'il y a avec Molenbeek. Donc, je me dois bien évidemment, associé à mes joueurs, à mon staff, d'y répondre du mieux possible pour donner du bonheur à nos supporters. Je pense que c'est une des valeurs fondamentales d'un entraîneur.
Ben, j'imagine bien. Et justement, à propos d'entraîneur, c'est quoi votre recette, Felice? Parce qu'il est impossible de ne pas faire le parallèle avec votre période Carolo. Vous avez pris une équipe qui stagnait un petit peu à l'époque. On va pas s'étendre sur Charleroi, bien évidemment. Mais, et vous en avez fait, oui. Vous en avez fait une équipe, vous avez donné une âme. Et à l'Union, j'ai envie de dire, moi qui étais un supporter de l'Union depuis que j'ai 8 ans, c'est le premier stade, le premier gradin que j'ai foulé, mon père m'y emmenait. L'Union, vous êtes aussi arrivé dans... On attend depuis des décennies un sacre et un retour en D1A. Quelle est votre recette pour créer cet esprit d'équipe ?
Je manquerai d'humilité en parlant que de moi, bien évidemment. Donc tout d'abord, il faut, je pense, mettre en évidence aussi le travail des entraîneurs précédents qui ont déjà construit quelque chose et qui ont malgré tout, démarré un processus de professionnalisation du club et avec aussi des bons résultats les 2 dernières années. Ensuite, m'associer bien évidemment aussi au travail actuel et de notre direction. Qu'elle soit ici en Belgique ou qu'elle soit en Angleterre, parce que c'est tout un processus. Mais ce qui est le plus important, c'est de se sentir bien dans l'endroit où on est. Et j'ai un staff extraordinaire, j'ai une direction qui me fait confiance, et c'est un peu le même cas, la même situation que j'avais à Charleroi. Et à partir de là, j'ai beaucoup d'amour pour les gens avec qui je travaille et je m'exprime du mieux possible et j'essaie d'être le plus naturel possible. Et je pense qu'il y a une alchimie qui s'est créé, qui fonctionne pour le moment entre les différents partis de ce projet. Et c'est ce qui nous permet tous ensemble, bien évidemment, et pas moi uniquement, d'être où on est aujourd'hui.
Ben justement, et je salue votre humilité, comme vous le disiez vous-même, parce que je ne suis pas un professionnel, bien sûr, du sport et du foot en particulier, mais partout où je passe et où on parle foot, parce que on est footeux tous ici, et qu'on parle de Felice Mazou, eh bien, vous faites l'unanimité. Je ne connais et je n'ai jamais rencontré qui que ce soit, mais qui que ce soit, qui est bitché, comme on dit actuellement, sur vous, qui ait des critiques à émettre sur l'homme, sur l'entraîneur. Vous êtes vraiment, comme qui dirait, le plus bankable des entraîneurs.
Mais c'est la vérité. C'est gentil, merci beaucoup. Oui, c'est vraiment gentil de votre part. Après, voilà, je pense que la meilleure façon pour réussir quelque chose, c'est d'être soi-même et de pouvoir transférer son message en étant l'homme qu'on est dans la vie de tous les jours. Voilà, en tout cas, ça fonctionne pas trop mal ici à l'Union et je m'en réjouis.
Bien. Alors, on va encore 2-3 questions, si vous le permettez. Oui. À l'image de Liverpool, alors vous allez me dire, mon Dieu, avec quoi il vient. À l'image de Liverpool, est-ce que vous, vos joueurs, n'êtes pas trop frustrés de ne pas pouvoir, le cas échéant bien sûr, fêter l'événement attendu depuis tellement d'années, ou voire des décennies, puisque je le disais, avec votre tifosi? Je dis ça puisque je sais que tout le monde sait que vous êtes d'origine italienne.
Oui, ben écoutez, on va considérer que l'événement y aura, je l'espère, j'ai pas envie de parler trop vite, donc au moment où l'événement arrivera, s'il arrive, et on en est très proche bien évidemment, c'est une catastrophe, c'est vraiment une catastrophe de ne pas pouvoir fêter ça avec ses supporters. Je pèse mes mots, une catastrophe parce que les supporters finalement sont l'âme d'un club. Et quand vous imaginez que nos supporters attendent ça depuis 48 ans, c'est très difficile d'accéder à quelque chose sans eux. Et donc, il va y avoir un manque. Il y a rien à faire. Il va y avoir un manque quand ça se produira. Si ça se produit, il va y avoir un manque de transmission d'émotions, de transmission de joie, de bonheur, et c'est quelque chose de catastrophique parce que le sport est véhiculé finalement par le bonheur que les spectateurs peuvent Bien avoir sûr. et par le bonheur que eux aussi transmettent aux joueurs, au staff et à une direction ou à un club tout entier. Donc pour moi c'est vraiment une catastrophe, oui.
Mais écoutez, de toute façon, j'imagine que tôt ou tard, voilà, il vous faut 2 points sur 18, on va pas mettre la charrue avant les bœufs, mais voilà, ça devrait se faire et ça se fera comme ça se pourra, comme on dit chez nous, et ouais. J'espère en tout cas et je vous le souhaite. Alors, Felice, quelle différence y a-t-il, vous qui avez connu les deux, selon vous, entre la D1A et la D1B? Et la sous-question est la suivante. Vous avez eu un épisode malheureux il y a une quinzaine de jours maintenant, ou 3 semaines, je pense, avec la défaite face à Anderlecht en coupe, 5-0. Est-ce que c'est un accident de parcours de l'équipe, selon vous, ou bien il y a une vraie grosse différence entre la D1A et la D1B?
Alors, tout d'abord, je pense qu'il y a effectivement une différence au niveau du rythme et du tempo. Ça, c'est une évidence. Et à ça vient s'ajouter l'efficacité dans les deux rectangles. Je pense que ce sont les points majeurs. Après, si on reprend notre match d'Anderlecht, je pense que l'analyse doit être faite un peu de manière différente parce que jusqu'à l'heure de jeu. On avait fait vraiment un très très bon match. On aurait d'ailleurs mérité de mener au score après la demi-heure. On s'est créé les premières grosses occasions. Et la différence dans ce match-là et par rapport à une division 1A et 1B, je pense qu'elle est mentale aussi. On n'a pas réussi par rapport à la valeur de l'adversaire, par rapport au nom de l'adversaire. Après le 2-0, à rester concentré, à rester organisé, certainement aussi un peu de ma faute parce qu'on a joué de la même manière qu'on joue en D1B, ouvert, en essayant d'être conquérant, en essayant d'aller vers l'avant. Et je pense que contre ce genre d'adversaire, ma mise en place, en tout cas après l'heure de jeu, aurait dû être différente. Donc l'erreur, certainement en grosse partie de ma faute, mais cette différence de tempo et de rythme, on va devoir, si on accède à cette DNA, on va devoir l'acquérir, et ça se fera par l'expérience, ça se fera par l'enchaînement des matchs, par l'enchaînement des entraînements, et aussi avec une pression bien évidemment différente.
Oui, bien vu. Et cette autocritique vous honore, Felice. Franchement, c'est rare, les entraîneurs qui prennent, parfois à chaud, ils protègent les joueurs qui sont dans le vestiaire après une défaite, et vous, même trois semaines après, vous endossez, franchement, chapeau bas. Et vous évoquiez à l'instant, justement, le rythme, etc., et la différence de tempo. Alors, on ne va pas mettre de nouveau la charrue avant les bœufs, mais j'imagine quand même qu'en coulisses, on s'active. Arrêtez-moi si je me trompe, mais est-ce que vous êtes déjà, quand je dis vous, c'est pas que vous, Felice, c'est aussi le club et les dirigeants, est-ce que vous êtes déjà en train de vous activer pour construire la saison prochaine, au niveau des transferts, bien sûr, mais aussi au niveau de l'infrastructure du club?
Alors, très honnêtement, au niveau des infrastructures, oui, il y a déjà des démarches bon, qui resteront bien évidemment à l'intérieur pour le moment, en ce qui concerne l'amélioration des terrains, que ça soit du terrain principal ou des terrains d'entraînement. Ça, c'est une certitude, mais qu'on aille en D1A ou qu'on reste en D1B, je pense qu'il y a un besoin de rafraîchissement et d'amélioration des infrastructures proprement dites, entre guillemets, surtout au niveau des terrains. Ça, c'est une première chose. Maintenant, de nouveau, très honnêtement, on n'a pas avancé dans la construction de autre chose de ce qu'on a actuellement, parce que tout simplement le groupe que j'ai à ma disposition mérite le plus grand respect.
Bien sûr.
Et donc si on veut aller au bout de ce projet, il est pas question aujourd'hui de commencer à parler de nouveaux noyaux, d'un noyau différent. Je pense qu'on doit avancer avec ce groupe là et une fois que l'objectif sera acquis, eh bien on aura des discussions avec tout le monde et on verra vers où on veut avancer. Mais aujourd'hui, avec la saison que ce groupe est en train d'effectuer, ce serait malvenu de parler de transfert ou de changement de joueurs, parce que j'ai déjà eu des bons groupes, hein, vous le savez bien. J'ai eu des bons groupes au Hectare, au Luy, j'ai eu un bon groupe à Charleroi, j'ai eu un bon groupe à mes débuts de carrière à Braine-l'Alleud, mais ce groupe que j'ai là à l'Union fait partie des meilleurs par sa mentalité, par son attitude, par son respect. Et donc, moi, j'avancerai le plus loin possible avec ce groupe-là, sans parler d'autres éléments.
Bien, justement, on va dans la direction que je voulais aller. Est-ce que vous êtes à l'image de votre époque Carolo, j'y reviens encore, est-ce que vous êtes à l'Union sur du long terme, Felice?
Je suis quelqu'un de projet. Après, pour pouvoir rester dans le long terme, il faut pouvoir sentir la confiance de tout le monde dans le temps, dans la longueur du temps. Alors jusqu'à présent, bien évidemment, je me sens vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment bien dans ce club, que ça soit avec les joueurs et que ça soit avec la direction. C'est dommage que je n'ai pas su croiser notre public ou nos supporters. On l'a fait une fois ou deux. J'aurais aimé partager aussi avec eux, mais aujourd'hui je suis bien. Et donc si le club a envie de moi, et qu'on avance ensemble dans les idées, oui, je suis quelqu'un à long terme, bien évidemment.
Comment allez-vous gérer ça, Felice, avec une statue à Saint-Gilles et une statue à Charleroi à votre effigie? Où que vous allez vous retrouver sur un socle en bronze, dites-moi. C'est quand même merveilleux. Quelles sont vos ambitions personnelles et celles du club pour la saison prochaine?
Écoutez, en parlant de statut, c'est un peu comme un homme qui a une femme et une maîtresse, hein, donc il faut pouvoir jongler et gérer et parfois aller avec sa femme et parfois aller avec sa maîtresse. Donc,
bah, non, ça n'engage que vous. Hein.
Oui, bien évidemment, c'est une boutade.
Mais j'ai bien compris. Boutade.
Mais écoutez, la sous-question, c'était, avec les statuts.
Quelles sont vos ambitions personnelles et celles du club pour la saison à venir?
Voilà, ben nos ambitions personnelles à court terme, bien évidemment, c'est cette accession en division 1. C'est vraiment une grosse priorité. De toute façon, je ne serai plus là si ça n'est pas le cas, puisque mon contrat se terminerait. Et donc, c'est évidemment de s'installer dans cette division 1.
De manière durable, j'imagine.
À court terme et à moyen terme, voilà, et être durable et ne pas jouer le maintien tous les ans. Quand on accède à une nouvelle étape, la nouvelle étape, elle est plus compliquée, elle est plus difficile. Donc, c'est à ce moment-là, je vais dire, la période la plus importante. Et puis, l'objectif, c'est de pouvoir s'installer et pouvoir faire des bonnes saisons en division 1.
Eh bien, on va terminer cet entretien avec une boutade que m'a soufflé Henri tout à l'heure. Est-ce que vous êtes conscient, vous avez certainement entendu parler, Felice, de l'Union des 60, hein, les 60 matchs sans défaite de l'époque, hein,
oui.
J'imagine. Est-ce que vous êtes conscient,
oui,
qu'il vous en reste 50 à gagner et que si vous gagnez vos 50 matchs, vous êtes champion et vous gagnez la Champions League si vous gagnez vos 50 prochains matchs?
Alors, 50 de suite, c'est ça que
oui,
vous me dites,
hein,
pour arriver à 60.
Tout à fait. Ah,
mais je n'oserais pas relever le pari. Je n'oserais pas relever le pari parce que je pense que c'est quelque chose de très difficile. Voilà.
Bah écoutez, en tout cas, on vous souhaite tout le meilleur et par avance, parce que si vous gagnez samedi, si vous gagnez, c'est samedi que vous jouez, je sais que
oui, oui,
par une indiscrétion signée Wikipédia que vous fêtez vos 55 ans vendredi. Alors, par avance, bon anniversaire,
oui,
Felice. Et j'espère
Merci
que
beaucoup.
Vous pourrez souffler ça dans les vestiaires avec champagne et tout ce qu'il faut à la clé.
Voilà, je l'espère aussi. Merci beaucoup pour votre invitation et pour la soirée.
Mais c'était un bonheur de vous avoir. Merci à vous, Felice.
Merci beaucoup.
Bonne
soirée.
Au revoir,
à bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Merci,
au revoir.
Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.
Eh bien, qu'en dites-vous, les camarades?
C'est
classe,
vraiment,
hein,
très
garçon.
Intéressant de l'écouter parler.
Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Un vrai bonheur.
Moi, j'hésitais à revenir parce que tu disais que sa carrière était exceptionnelle, ce qui est tout à fait vrai, mais il y a un accro qui, pour moi, est inexplicable et en tout cas inexpliqué jusqu'à présent. C'est son accro à Genk.
Ben, à mon avis, il ne se sentait pas à la maison, comme il l'a très bien expliqué.
Oui, c'était... peut-être. C'est peut-être ça. Ouais.
Mais
question culturelle avait été discutée aussi. Oui.
Moi,
il
n'y
a
avec
pas les confiances. Hein,
comment dis-tu?
Il fonctionne dans la confiance.
Tout à fait. Oui. On sent ça. On sent ça transpire dans ses
peut-être
propos.
Peut-être qu'à Genk, il l'a pas ressenti en fait.
Il n'a pas eu le temps non plus. Et puis en même temps, je vais te dire que si les dirigeants de Genk étaient des dirigeants d'Anderlecht aujourd'hui, du Standard et d'autres, il y aurait déjà eu des valses d'entraîneurs. Il y en aurait déjà eu 5 par équipe certainement, parce qu'on lui a pas vraiment laissé. On n'a pas laissé sa chance au produit.
Non du tout. Et alors, il faut se rappeler qu'en début de saison, à l'Union Saint-Gilloise, ça n'a pas commencé comme ça l'est maintenant. Il s'était un peu plus en dents de scie. On se posait la question de savoir quel était son projet. Et puis, le temps de se poser la question. Et le temps de se poser la question, il a décollé et on ne l'a plus jamais revu.
Ah ben non, mais.
D'ailleurs, il a précisé quelque chose dont moi, je n'étais pas du tout au courant. C'était les termes de son contrat. Je ne pensais pas que s'il n'accédait pas en D1A, il était automatiquement viré du club. Quoi.
Mais je ne suis pas sûr que c'est ça que ça voulait dire. Je pense que c'était un an renouvelable. Je ne pense pas que.
À mon avis aussi, il y a un renouvellement, à mon avis. On l'a vu, c'était un contrat d'un an avec un renouvellement automatique si il montait en division.
Maintenant, clairement, quand il te manque 2 points à 6 matchs de but et que tu n'y arrives pas, alors c'est clair qu'il y a un gros souci.
Oui.
Mais à mon avis,
oui, ils ont tellement survolé cette division que si maintenant ils n'y arrivent pas, ce serait
mais
fou.
Mais de la tête et des épaules, c'est pas comme en. Alors, je ne veux pas vous faire du mal, les copains, mais c'est pas comme en D1A. Je veux dire, c'est pas par défaut hein, qu'ils sont champions. Ils sont champions de haute lutte.
Ils ont
quand même Serein qui avait aussi, toute proportion gardée, un budget analogue, ou quasiment, je pense. Il y avait le Molenbeek, enfin, le RWDM. Il y a Dane, je pense, aussi, qui est sur les rangs. Il y avait quand même quelques clients. Et chacun s'est défendu bec et ongle. La preuve, c'est que derrière eux, ça se bagarre un peu comme derrière Bruges.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous trouvez ça très, très classe d'un profil comme le sien, d'accepter un défi pareil en D2, avec le poids de l'histoire, avec... Des Anglais derrière, à mon avis, qui ont mis de l'argent, qui sont assez regardants au projet. Il a dit, il a signé pour ce projet-là, c'était faire monter l'Union. Et je trouve ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça...
Mais à mon avis, ça m'étonnerait vraiment qu'on lui ait dit « on a un projet, c'est de monter, et tu as un an pour le réaliser, à mon avis. » Ou une saison, c'est même pas un an, c'est une saison. À mon avis, ça, c'est pas les termes du contrat, mais je pense qu'effectivement, ça fait partie du tout.
En tout cas, il a accepté de reculer pour mieux sauter.
Ouais.
Et ça, c'est... Voilà, et y arriver, c'est la classe des grands.
Hein. Ah, bah, tout
mais
à
avec
fait.
La quasi-certitude qu'ils allaient monter quand même, enfin, cette année. Je veux dire, le noyau était quand même...
Tu sais depuis combien d'années on dit ça?
Ouais, non, je sais, mais là, les les deux, trois dernières années, c'était quand même à chaque fois dans les deux, trois dernières journées où ils perdaient un match bête et ils n'arrivaient pas à passer.
Enfin, il faut passer les paliers.
Et la structure du championnat était différente parce que dans les saisons précédentes, c'était une structure de championnat assez classique. Là, on se retrouve avec combien 8, 10 équipes. Mm-hmm.
Oui. Donc, ça fait déjà quelques années. Là, hein. Ça fait 4-5 ans, je pense, que c'est déjà comme ça. Ils se rencontrent chacun 4 fois ou c'est 4 ou 5 ans, je pense, dans ces eaux-là. Donc, il y a 28 matchs par saison pour eux. C'est l'impression que j'avais. Et puis, il faut rendre hommage à Lucas Elsner parce qu'il évoquait ses prédécesseurs qui a aussi proposer ce jeu ouvert qu'on voit maintenant à court trait, bon an, mal an, mais c'est une vraie bouffée d'air de voir une équipe pareille jouer. Et ça, c'est le saut de l'entraîneur. Et je pense que Felice l'a dit très humblement, contre Anderlecht, pour répondre à la question qu'on se posait juste avant l'entretien, ils prennent 5-0, ils sont à 2-0. Bon, évidemment, c'est une équipe de D1B, ils sont un peu découragés, mais ils ont continué de jouer au foot, quoi. Ils ont pas mis le but, ils ont pas fait de la Mourinho, quoi.
C'est vrai, et en fait, j'avais envie de lui dire quand il disait ça, mais je pense que personne ne vous en voudra parce que c'est horrible de regarder une équipe qui défend à 5 derrière et parce qu'il y a un gros nom face à eux. Et c'est tellement rare en plus dans notre football de voir un entraîneur qui arrive face à un gros nom, qui arrive comme il dit avec une mentalité ultra offensive et à 2-0 il change même pas. Et moi je trouve ça génial quoi. C'est ce genre de nouvelle mentalité où on arrête de mettre le bus. Je trouve ça trop bien. Et il en manque un peu dans le.
Comment tu peux dire ça et aimer Mourinho?
Mais ça c'est des histoires différentes.
Non, n'empêche lui, il prenait la faute sur lui de bien ne pas sûr. Avoir
absolument,
changé.
Absolument.
Bien sûr.
Et les trois semaines après, comme tu disais, c'est bravo quoi.
Bravo, chapeau bas.
Et je trouvais que ta comparaison, toute proportion gardée avec Liverpool est tout à fait vraie.
Tout à fait.
Parce que il suffit que n'importe qui était allé ces dernières années dans les travées.
Quand tu es supporter, que ce soit du FC Zwendrecht ou de Liverpool ou de Real Madrid, l'amour est le même, la passion reste la même.
Et la longue éloge du FC Zwendrecht.
Et la célébration après une longue attente prend toujours plus de cœur et de corps. Hein.
Absolument.
Je sais de quoi je parle. Ouais, oui, mais tout qui est allé ces dernières années au Stade Marien sait que, honnêtement, on aurait tellement aimé vivre place ce moment tant attendu, comme il a dit, depuis presque 50 ans.
Quoi qu'il arrive, samedi, ce serait pas sur place, ce serait à Molenbeek. Hein.
Oui, mais je n'ai aucun doute que tout le monde se serait retrouvé sur place par la suite.
Ça, hein. Oui. Ouais. Tu sais que, alors ça je n'ai pas évoqué avec lui, mais de mémoire, j'avais un ami, enfin j'ai toujours un ami qui est supporter de Charleroi, mais qui était Carolo, et je me souviens, il m'a emmené au foot car Charleroi était en D2, et on est allé à Saint-Tron, je crois, ou à Beveren, je ne sais plus, non, à Saint-Tron, pour le match pour la montée pour le sacre. Et Charleroi avait la réputation de drainer des supporters, mais c'était incroyable. Il y avait 2000 Carolo, on était en D2, quoi. C'est-à-dire, c'était inouï. Et l'Union, c'est la même chose. Où que tu ailles, je me souviens de l'Union en D3, j'allais à Zell avec mon père. Il y avait, pour la D3, il y avait entre 500 et 1000 personnes qui allaient voir l'Union, qui le suivaient partout. Donc l'Union, c'est vraiment quelque chose qui fédère. Tout le monde connaît l'Union, qu'on soit liégeois, brugeois ou verviétois ou même arlonnais. Tout le monde connaît l'Union.
Et ce qui est impressionnant aussi, c'est que quand on est bruxellois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le foot, quasi tout le monde supporte l'Union en fait. C'est vraiment un club où...
Même les supporters d'Anderlecht.
Ouais, c'est ça.
Moi, j'en ai parlé avec un des dirigeants de l'Union quand on a préparé cette interview, qui me disait, on a vraiment des gens qui vont le samedi soir, c'est culturel, ils vont samedi soir au foot à Anderlecht, mais le dimanche, ils viennent en famille à l'Union.
Oui, tout à fait.
Et c'est pas incompatible, loin de là.
Mais loin de là, mais de toute façon, Bosman, c'est Copenhague.
De toute façon, pour un Anderlechtois, c'est mieux d'être supporter de l'Union que du RVDM.
Bon, d'accord, ça c'est dit. Bien les enfants, voilà pour je dirais
et le vrai sujet, et tu l'as abordé du futur. Oui. Ça va être de cette question de la gestion, parce que combien de fois on n'a pas vu des feux d'artifice après une montée, des explosions de joie pendant les mois qui suivaient, et puis ce même entraîneur, et j'espère que ce sera pas de Mazou, qui était porté au nu pour avoir tellement bien réussi et avoir réussi à faire remonter cette équipe après 10 matchs en division 1 et qui se retrouve avec 2-3 points et la lanterne rouge, il se fait virer parce que justement les attentes ne sont pas au rendez-vous et c'est ça, c'est tout le défi.
Mais ça arrive même au Barça et au Real Madrid, hein. Je veux dire, mais ça c'est quand...
Mais donc arriver à ce que tout cet enthousiasme ne retombe pas à partir du moment où on sera confronté à une réalité peut-être moins glorieuse de tous les samedis en Division 1, avec évidemment on n'aura pas le même nombre de points à la fin du championnat.
Normalement non.
Il y a une petite nuance, c'est que là ils ont pris un entraîneur qui a de l'expérience en D1, Ouais. C'est souvent arrivé avec des entraîneurs qui étaient en D1B, qui sont montés avec leur club et qui effectivement avaient peut-être pas les codes pour la D1A. Et là, dans ce cas-ci, avec Felice Mazou, et en plus il l'a dit en filigrane, je vais pas trop le dire, mais ils ont structuré aussi le club pour être opérationnel en D1. J'en veux pour exemple justement ce match de coupe qui a pu se jouer contre Anderlecht parce que...
Et alors que Charleroi, voilà, ils étaient toujours... ils manquaient et que Bruges n'a pas pu jouer à Charleroi parce qu'ils n'avaient pas réussi à déneiger alors que...
Ah non, bénévoles... ils sont très bien organisés. J'étais tout à fait pour d'autres raisons à la commune de Saint-Gilles il y a quelques semaines. Et j'ai posé la question à l'échevin qui était là, l'échevin des sports, qui était à la même réunion que moi. Comment est-ce que vous avez préparé cette montée en D1? Vous savez comment vous allez faire? Est-ce que, quelles sont les conditions que vous devez remplir en termes d'infrastructure pour pouvoir avoir cette licence permettant de jouer en D1? Il m'a dit aucun souci. On a deux points qui ont été identifiés, qui vont devoir être améliorés dans le stade, et ce sera fait cet été, et tout sera aux normes.
Génial. Mais parce qu'ils l'avaient déjà remis aux normes récemment, non, quand ils ont rajouté les deux tribunes, là, et ils ont...
Bah, d'une certaine manière, j'ai envie de dire, ça c'est le côté agréable du Covid, c'est que ça leur permet d'avoir le temps aussi, puisqu'il n'y a pas de spectateurs, donc par définition, les mesures de sécurité n'ont pas la même urgence, je dirais, pour les clubs qui sont un petit peu borderline, donc quelque part, le temps joue en leur faveur.
J'ai une question. Tu parlais de Saint-Gilles. Le stade, il est géographiquement à Forêt.
C'est une très très bonne question, c'est vrai. C'est à Saint-Gilles qu'on en a parlé, en tout cas.
Non, tu vas pas commencer à nous dire que ça va s'appeler la Forestoise, de nouveau.
Non, pas du tout, mais en termes justement d'infrastructure...
Non, je rigole.
C'est une très bonne question, Henri. On y répond la semaine prochaine.
Tu peux revenir en deuxième semaine, d'ailleurs.
Ça, c'est du teasing.
Bien, moi, je vous propose de changer de sujet, d'aller vers la Croquis Cup. Enfin, on va changer que de sujet, puisqu'on reste dans le foot.
Si ça te fait plaisir, Didier, de parler de la Croquis Cup.
oui, bien sûr que ça me fait plaisir, pourquoi pas. C'est ça la beauté. Si tout était sur le papier, ben, il faudrait plus faire de championnat, il faudrait plus faire de coupe. On donne la coupe et le championnat à la meilleure équipe ou au plus gros budget selon les cas. Et là, effectivement, ça a réservé des surprises, parfois bonnes, parfois mauvaises, selon qu'on est supporter de l'une ou l'autre équipe. On peut revenir sur Standard Bruges, parce que par-delà le résultat, tout le monde se souviendra que le Standard a éliminé Bruges 1-0. On va s'attarder un petit peu sur le VAR et sur les décisions arbitrales. Alors, c'est marrant parce que au départ, tout le monde s'est jeté à bride abattue sur l'arbitre Verbomen, parce que c'est pas tellement la décision, parce qu'elle a été la bonne en définitive, ça c'est clair, mais c'est les atermoiements. J'annule, et puis je valide, et puis je re-annule, etc. Le VAR étant absent, c'est qui est, de mon point de vue, ça n'engage que moi, une absurdité absolue, parce que tu as Ostende, Daines, c'est avec le VAR, enfin pas Daines, mais Ostende, Waasland, Beveren, t'as un VAR, et puis tu as un choc Standard Bruges et t'as pas de VAR. Et je veux dire, ça n'a pas de sens.
Il n'y avait pas de VAR parce qu'une autre rencontre, c'était quoi? C'était la Gantoise Open? Je ne sais plus. Une autre rencontre n'était pas diffusée à la télévision, ouais, et donc il n'y avait pas de caméra permettant d'utiliser le VAR. Et pour équilibrer les choses, ils ont décidé de ne pas utiliser le VAR.
C'est encore une fois un truc à la belge. Je m'excuse de le dire, mais c'est comme je le pense. C'est nul.
C'est le sel de notre pays, des décisions dont on ne comprend rien.
Alors là, il se trouve que l'arbitre a pris la bonne décision. Par contre, ce qui est marrant, c'est que par la suite, deux jours après, on reparle plus du tout de cette action-là, puisqu'on dit que, ok, ça a été hootgekeurd, comme on dit en néerlandais, ok, validé la décision de l'arbitre, mais on revient sur le but du Standard. Et donc, il s'avère que après, et même le corps arbitral s'en est expliqué, enfin, je veux dire, la fédération, comme quoi le but aurait dû être invalidé pour un hors-jeu, de Klose, qui fait la passe.
Mais de nouveau, c'était difficile parce qu'il n'y avait pas les lignes.
Voilà.
Et donc, il n'y avait pas les lignes, et donc les caméras n'étaient pas suffisamment bien positionnées que pour le savoir. Et honnêtement, Bruges, aucun joueur de Bruges ne s'est plaint à ce moment-là. C'est pas le critère, hein, parce que sinon.
Non, ils n'ont pas voulu.
Contrairement à ce qu'on peut croire quand on regarde un match de foot, la plainte n'est pas le critère d'utilisation du VAR. Mais
justement, juste pour te couper, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de joueurs qui, comme il n'y a pas de public, comme l'arbitre entend tout, il y a de plus en plus de joueurs qui essayent de crier beaucoup plus fort pour faire croire que le choc est beaucoup plus fort. Je te laisse continuer.
Ah non, c'est tout à fait possible. Ou alors on l'entend plus, hein.
Peut-être.
Par contre, les copains, franchement, j'espère que si jamais la finale de la Coupe doit s'avérer être le Classico version 3, que vous allez nous donner un autre, quand je dis vous, c'est parce qu'il y a Steve et toi, Henri, et que vous êtes respectivement Standardman et Anderlecht, toi, que vous allez nous offrir autre chose que la daube de la semaine passée, ouais. Quoi. Ouais, s'il vous plaît.
On ne peut qu'être d'accord avec toi.
Honnêtement,
on n'est pas très très fiers, enfin, de manière générale.
Oh, purée.
Je trouve finalement que ce Classico était à l'image de la manière dont les deux clubs jouent depuis le début de saison.
Wow. Et Didier, donc. Tu peux noter le 8 mars, on est d'accord.
Mais avouez, franchement, c'est à pleurer, quoi. C'est à pleurer.
Et quand on voit la suite des événements, je pense que finalement, ce match pour Anderlecht, c'est vraiment un arbre qui cache la forêt, quoi, parce que ça a servi d'alibi et en fait.
C'est comme tous les matchs. Et, alors, j'ai lu un titre, j'ai pas voulu le reprendre parce que ça aurait été un peu plagiat, mais on dit que c'est l'année des montagnes rouges au Standard. C'est pas faux, hein. Et c'est valable pour Anderlecht. Je pense qu'il y a, ça va là pour Genk, qu'ils ont tous eu des creux de vague, mais. Comme ça, un mauvais football, comme ça, un mauvais spectacle, j'ai presque envie de dire que c'est un manque de respect vis-à-vis du public, enfin des supporters, parce que le public en a pas, mais des supporters, quoi. Je veux dire, les mecs, ils ont payé leur abonnement, je sais pas s'ils ont été remboursés ou pas, mais moi je me mets à la place d'un supporter d'Anderlecht ou un supporter du Standard cette année, franchement, waouh!
Oui, moi j'ai des souvenirs, je sais plus si je pense que j'en ai parlé il y a 2-3 semaines, j'ai des souvenirs de Classico où je n'arrivais pas, qui se jouait genre un vendredi soir, où je ne savais pas travailler de la journée tellement j'étais tellement j'étais excité, angoissé, stressé, je ne pensais qu'à ça. Et là, j'ai failli, vraiment failli, littéralement m'endormir pendant le match.
Bah oui.
Mais tellement,
temps, l'horaire était vraiment parfait, quoi, dimanche après-midi.
Après le poulet compote.
C'est ça.
Et alors,
qu'est-ce qu'on s'embêtait, quel manque de passion, quel manque d'abnégation, quel manque de rêve.
Mais est-ce que vous ne trouvez pas que, justement, dans cette équipe, il n'y a aucun joueur qui incarne ces clubs? Il n'y a aucune forte tête comme on a connu des De Skaart, comme on a connu des clubmen, ouais. Il n'y en a aucun. T'as l'impression que c'est que des gars qui sont là de passage parce que soit ils vont avoir une offre en Angleterre ou en France ou je sais pas où. Enfin, et que c'est
à l'Olympique de Marseille.
Non, je pense pas, franchement. Ouais. Je suis d'accord dans les cas d'or. Maintenant, les deux clubs ont ça en commun, qu'il y a quand même quelques jeunes qui sortent de leur académie et qui n'ont pas, certainement pas encore la capacité de représenter un blason clubmen, mais qui sont des clubmen parce qu'ils ont fait toutes les équipes de jeunes. Mais
ils n'ont pas encore vécu des classicos.
C'est ça, voilà. Ils n'ont pas vu le classico avec la tête de Defour décapité, enfin les trucs.
Le duel Vasilevski-Witzel.
Excusez-moi, mais pour moi, ça, c'est pas une excuse de dire ils n'ont pas encore vu les classicos vécus. La motivation, enfin, je sais pas. Les gens qui te disent un joueur de foot, il joue son match à la carte. Excuse-moi, son salaire, il est le même qu'il joue contre des Bracassés ou contre des Cador. Alors, il doit mouiller le maillot à chaque match. Je suis désolé, c'est le moins qu'on puisse demander. Si moi, je commence à bredouiller le lundi, puis je fais une bonne émission le mardi, puis le mercredi, je bredouille, au bout de 2 semaines...
Et puis, 3 points contre Anderlecht ou le Standard, et puis 3 points contre Zultuara Game, c'est la même chose en phase classique.
On est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc, pour moi, c'est pas une excuse de dire ils ne sentent pas, ils n'ont pas... La motivation, elle doit être là, à tous les niveaux du
club.
Ça,
c'est le problème du football en général.
Ils ont trop d'argent. Gagne trop et on en fait trop des poupées Barbie, j'ai l'impression, parce qu'on leur trouve des excuses qui, de mon point de vue, n'en sont pas. En fait, c'est des fautes professionnelles que de ne pas être motivé quand tu es joueur de foot. Je suis désolé, tu vas à l'école, alors tu dois plus punir ton gosse parce qu'il a une mauvaise interro, hein, parce qu'il a pas étudié. Bah oui, on n'a pas envie d'étudier tous les jours, puis ça, c'est une petite matière qui servira à rien. Bah tant pis, non,
mais
ils sont punis, les gamins.
Vous allez peut-être me soupçonner de faire une fixette, mais je vais revenir là-dessus. Je pense que ce genre de gars sont motivés une fois qu'ils sont partis du championnat de Belgique, une fois qu'ils ont décroché leur gros transfert.
Ouais, mais c'est vont, je pense que faire. C'est pas qu'en Belgique, tu sais, je pense que tu vois des matchs même...
Mais Blaise, attention, hein. Quand tu n'es pas déjà motivé à ce niveau-là, il ne faut c'est pas croire que d'abord un grand club va venir te chercher.
Exactement.
Et à supposer que ce soit le cas, c'est déjà pas une mentalité qui forcément va te permettre automatiquement d'être titulaire et de continuer ta carrière. On en a vu, hein. De ces joueurs qui disaient oui, moi je suis de passage, moi je vais aller chercher ailleurs, et puis on n'en a plus jamais entendu parler, où ils sont revenus après à Lokeren ou à Malines. Je veux pas employer une mauvaise expression, mais un peu la tête entre les jambes, et ils arrivent et ils reviennent, et finalement ils avaient les étoiles plein les yeux de ce qu'ils allaient pouvoir faire à l'étranger, mais ils n'avaient juste pas la bonne mentalité, parce que la bonne mentalité, c'est ici qu'il faut l'avoir pour décrocher après ce que tu souhaites,
hein. Ça, je suis d'accord. je pense qu'on est tous d'accord maintenant.
Bien sûr. Henri.
Pour en venir à la coupe, normalement, c'est censé être une autre compétition, mais je trouve qu'en Belgique, on n'arrive pas à donner du sel à cette compétition.
Mais encore cette année, ils ont fait un gros effort, hein, parce que d'habitude, la finale de la, c'était déjà passé. Hein. Il y a deux ans d'ici, c'était fin février, la finale. Ça niquait complètement les play-offs 1, puisque Zult avait gagné la coupe et donc pouvait jouer les play-offs 1 à la carte, puisqu'ils étaient déjà qualifiés. Enfin, une histoire belge, comme d'habitude. On parlait, excuse-moi, de motivation des joueurs. Quand tu vois un match de D2 en Angleterre, eh bien, je parle en termes de motivation, il serait champion de Belgique, mais les doigts dans le nez, quoi.
Ah oui.
Les doigts dans le nez. Rien qu'en termes de motivation, je parle même pas de talent, hein. C'est inimaginable. Ils jouent comme des morts de faim. Et ces gars, ils sont en D2, quoi.
Mais cette Croquis Cup manque de, je sais pas.
Mais même dans le championnat, tu sais, c'est valable, je pense.
La coupe, c'est pas qu'une histoire belge, hein. Ça fait plusieurs années dans beaucoup de pays à part en Angleterre, on en avait déjà un peu discuté, où là, il y a cet aspect historique, et encore, mais.
Puis en plus, ils ont trois coupes en Angleterre.
Oui.
Et ils sont motivés comme jamais, hein.
Mais dans beaucoup de pays, on a du mal à le valoriser. Je pense ces compétitions européennes qui ont pris une importance plus importante que les compétitions nationales ont rendu la coupe une compétition de deuxième zone dans beaucoup de pays.
En France, par exemple, ils ont annulé la deuxième coupe qui était la Coupe de la Ligue à l'époque. Maintenant, ils ont gardé que la Coupe de France. Ils ont annulé la Coupe de la Ligue parce que juste personne ne regardait, quoi. C'est
bien. Est-ce qu'on parlerait, parce que Sam nous a eu la gentillesse de nous préparer toute la conduite que j'ai sous les yeux, on parlerait du championnat de la 30e journée, ça vous va?
Mais ouais, on tourne la page de cette défaite de Bruges, si rapidement, sans en avoir parlé.
Ah ben non, on en a parlé, vous êtes qualifié, c'est merveilleux.
Non, tu as dévié sur la mauvaise prestation générale du Standard et d'Anderlecht.
C'est vrai. Par contre, alors, excuse-moi.
On n'est pas dupes, hein.
Mais Bruges n'a pas été mauvais du tout contre le Standard.
Mais pas
on
du
est
tout.
D'accord,
mais loin pas du de tout. Là. Et je le pense, je l'ai dit la semaine passée, ce match de Coupe d'Europe, qui honnêtement m'attriste encore très fort,
oui, clairement.
De Bruges, je pense qu'on joue ce match 8 fois sur 10, Bruges le gagne, je l'avais dit. Je pense aussi que
dans des conditions normales, avec des joueurs...
Que ce match de Coupe de Belgique, à l'inverse, peut-être pas 8 fois sur 10, mais 6, 7 fois sur 10, Bruges le gagne. Le Standard a eu un peu toute la réussite de son côté. Hein,
avec l'équipe type, normalement, je veux dire... Alors, c'était symptomatique, je me suis dit, mais mon Dieu, c'est extraordinaire. Bruges a pris 2 buts en 15 jours, et ils étaient sortis de 2 coupes. Et pour eux, c'est une galère, parce que quand tu vois la campagne de transfert, maintenant, il a un effectif pléthorique. Oui, qu'est-ce qu'il va faire?
Il a un effectif pour trois.
Ils ont transféré pour ça, et je parle même pas de l'argent.
Mais c'est un sérieux coup sur la tête, je trouve, pour Bruges.
Mais bien sûr.
Là, en une semaine, alors qu'on avait vraiment l'impression que Sky était de limite pour eux, on les voyait déjà gagner un doublé, on parlait même d'un triplé. Et là, il se retrouve un peu
dans une moindre mesure, j'ai vu
un peu comme le PSG lorsqu'il est éliminé de la Ligue des Champions.
Ils ont déjà gagné le championnat, là.
Oui,
clairement. Mais je te dis, ça doit être un choc psychologique. Et je ne parle pas en termes des faits ou de motivation, parce que je crois qu'elle est là. Mais il y a plein de joueurs qui vont se demander, est-ce que j'aurai du temps de jeu? Comment? Parce qu'il y en a qui jouaient en coupe, plus le championnat, et d'autres qui jouaient en Europe. Et là, je sais pas du tout comment ils vont le gérer, ou du point de vue humain, je parle même pas au niveau finance, parce que là, ils ont fait avec Noah Lang, à mon avis, ça va être jackpot, et il y en a plein comme ça qui vont rapporter des milliers et des cents, mais ça va être compliqué.
Il a encore du mal avec la défaite, hein, lui, il la connaît pas beaucoup, mais il a du mal. Hein.
C'est pas la défaite qui lui pose problème, c'est la manière. Parce
non,
que...
Noah Lang, je parle.
Ah, Noah Lang, oui.
Oui, il a très mal pris. Hein,
D'ailleurs, il avait mis un truc sur Instagram qu'il a supprimé directement. Je pense
c'est difficile d'être battu par plus faible que soi. Hein.
Mais aussi, je dirais l'excuse du talent et de la jeunesse, surtout. Ouais. L'impétuosité de la jeunesse.
C'est clair.
Alors, faisons notre mazou, on n'est pas encore en finale. Hein.
Non, pas encore. Mais personne ne l'est. Il y a Genk. Mais par contre, ça promet quand même, je pense, surtout pour le Standard et Anderlecht. Ça doit être pour eux le Graal, hein, parce que Genk a encore une chance, ils sont quasiment sûrs d'être en play-off 1, surtout depuis leur victoire de ce week-end. Il faudrait vraiment une catastrophe pour qu'ils n'y soient pas, mais pour Anderlecht et pour le Standard, ça va être les fesses serrées, hein, qui vont jouer. Donc ça promet quand même des batailles à couteau tiré, je dirais. Heureusement qu'ils ne se rencontrent qu'en finale.
Bah, c'est ça qui est chouette, c'est-à-dire que voilà, le championnat il est quasi fini, et il y a encore quelque chose à aller grappiller, et honnêtement... dans l'état de forme actuel dans cette saison, tout peut arriver. Hein. Le Standard peut être battu par Eupen, Genk peut évidemment gagner contre Anderlecht, tout peut arriver. Ou alors, il y a un classico, ce qu'on espère tous évidemment autour de la table.
Bien, vous savez ce qu'il y a 20h43, ça va être la mi-temps. Encore un petit dernier mot sur la Croquis Cup, peut-être, l'un de vous.
Et Anderlecht, ils n'ont pas survolé. Hein. Ils se sont qualifiés, mais ce n'était pas...
Dur, ouais.
Pas gagné. Quoi.
Et on revient sur le... C'était en coupe quand même, ce fameux... Il n'a pas reçu la carte rouge...
Ça, c'était au Classico.
Ah non, c'était au Classico, oui, exact. Et oui, Marcel Javot avait même, la semaine passée, expliqué que pour lui, c'était la jaune... Et, voilà. Et c'est vrai que toutes les interprétations sont possibles. Mais bon, la vie est injuste, comme disait Ardisson. Mais
on peut parler juste de la dernière phase. C'est dommage quand même que ça se termine en pugilat.
Oui.
Je pense que s'il y avait eu le VAR, ça aurait aussi évité ça.
Attends, parle dans le micro, c'est peut-être plus simple.
S'il y avait eu le VAR dans ce match-là, je pense qu'on aurait aussi évité pas seulement le résultat, la justesse des décisions, mais éviter ce spectacle.
Oui, mais c'est logique, il y a eu beaucoup de frustration. Bruges venait de se faire éliminer la semaine précédente. On est à la 94e minute. Hein.
Ouais,
donc
oui,
évidemment, sur les nerfs, ça joue très fort. Hein. Et Bruges, ça faisait 10 minutes qui mettait le pressing. Le Standard essayait de remettre la balle comme au rugby le plus loin possible et se créait des actions à chaque fois. Donc il y avait une vraie tension cette fin de match.
J'aurais vraiment préféré que Siké fasse ce qu'il a fait avant-hier contre Bruges. Mercredi, ça m'aurait bien arrangé. Même si c'est pas de sa faute.
Qu'est-ce que tu penses de Mignolet, de ses déclarations?
Eh bien, j'ai trouvé Mignolet en deux temps. Parce que la première fois, c'est un joueur de foot, il est là, il est un peu comme Thierry Henry et la main, mais enfin, à part qu'il a pas voulu, il l'a pas fait exprès de la main, en sautant. Et puis après, il a quand même été le premier à le reconnaître qu'effectivement, il avait vu les images et qu'effectivement, il avait touché.
Suis demandé, parce que la question reste ouverte, ou en tout cas, je n'ai pas vu vraiment ce qui s'est passé, mais la question qui se pose, évidemment, pourquoi est-ce que l'arbitre qui a vu la main, c'est pas ses assistants, c'est lui qui l'a vu, prend cette décision, revient sur cette décision, puis revient sur la décision qu'il est revenu, et je me suis posé la question, Mignolet, on le voit, le supplie de revenir sur sa décision, et je me suis demandé si ce n'est pas l'attitude de Mignolet qui l'a fait changer d'avis, sachant que Mignolet, c'est pas comme quand Vormer vient te trouver.
Exact.
Sait qu'il est correct, on sait que c'est un gentleman, et que on s'attend à ce qu'il soit honnête. D'ailleurs, il l'a pas été dans un premier temps, et puis il a tout de suite fait marche arrière, tout à son honneur d'ailleurs.
Tout à son honneur.
Mais je me suis posé la question si cette supplication de Mignolet n'a pas fait douter l'arbitre. Alors je ne comprends toujours pas pourquoi Scorie est revenu sur la décision deuxième fois.
Parce que ses assistants lui ont dit, et puis peut-être que l'arbitre lui aussi avait oublié qu'il n'y avait pas le VAR en définitive. Enfin bref, on est en Belgique, il faut s'étonner de rien.
Pour ça, j'ai cru comprendre que dans 4 mois, il n'aurait pas été sifflé.
Oui, non, c'est ça. Ça, on y reviendra tout à l'heure parce que... Enfin, si, peut-être, ça dépend si c'est volontaire ou pas. Il y a une nouvelle... à partir du mois de juillet, il y a des nouvelles réglementations. Ça veut dire qu'on joue la prolongation encore repartir pour une autre saison, ça se termine. Bien. Ah, c'est la mi-temps, les gars. C'est la mi-temps. Je vous propose d'aller boire le thé. C'est un nouveau verbe. Boire le thé, je boire le, tu boire le, il boire le. Et puis, vous saviez, aujourd'hui, c'était la journée internationale des droits des femmes. Alors, voici pour elle.
Delivered me.
Woman, Néné Chérie, la journée internationale des droits des femmes. J'espère que... Ben non, Néné Chérie, désolé, hein, c'est... c'est son nom, hein, on va pas me taxer de harcèlement, s'il vous plaît, merci. Bien, alors, mea culpa, effectivement, ce n'est pas Molenbeek l'Union, samedi, c'est bien Union Saint-Gilloise RWDM, et ça, ce sera donc au stade Marien. Et donc, à partir de là, je vous présente toutes mes confuses, comme on disait, dans le Père Noël est une ordure. Pour le reste, ceux que ça ne, à qui ça ne plaît pas, eh bien, on parcourt leurs commentaires d'un derrière distrait. À part ça, on revient maintenant à la 30e journée, pas la 30e, oui, la 30e, hein, oui, parce que j'ai mal préparé cette émission, je pense.
La journée des championnats. Personne ne sait quelle journée on joue.
Non, c'est vrai aussi.
Tu es le remplaçant de luxe, hein, parce que. le titulaire s'est blessé à l'échauffement.
Ah oui. On y reviendra justement tout à l'heure en parlant de Champions League avec Haaland qui s'est blessé. Mais avant toute chose, on va peut-être en début de deuxième mi-temps maintenant parler de cette journée de championnat qui a quand même... je vois ici Sam qui nous a écrit « Le Standard a-t-il touché le fond ?» Je pense qu'on est au fond du problème, mon cher Steve. « Le Standard a-t-il touché le fond ?» Toi qui es vraiment supporter, qu'en penses-tu ?
Mais jamais, on ne peut jamais dire ça parce que le Standard est une équipe imprévisible et c'est pour ça qu'on l'aime. Elle peut atteindre les sommets comme vraiment aller très 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 bas.
Ah oui, alors là, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, cette saison, ça c'est l'exception qui confirme la règle.
Oui, cette saison c'est vraiment bas. Le Standard a-t-il touché le fond ? Je crois qu'ils sont perdus cette saison et que le championnat est terminé pour eux. Il y a eu une petite illusion. Et heureusement, ça fait du bien, une petite illusion. Mais voilà, ça aura duré que le temps d'un éphémère 4 matchs. Et puis le retour aux très dures réalités est revenu. Et je pense qu'on n'a plus grand-chose à attendre de ce championnat. On peut miser, on doit miser, on doit espérer un petit miracle en couple.
En couple ? En couple, c'est
mais
aussi...
On doit espérer un miracle dans les deux, selon mon expérience d'homme marié et de supporter du Standard.
Et comme on le dit chez Charlie Hebdo, victoire en coupe et tout est pardonné.
Oui, tout à fait. Tout sera pardonné, parce qu'on pardonne. On est très vite fâché,
c'est vrai.
On est bouillant à Sclessin, mais aussi on pardonne très vite. On dit souvent au Standard que c'est deux défaites et c'est la crise, deux victoires et on se voit champion dans l'année.
Bah oui.
Même une victoire en coupe... Enfin, une victoire finale en coupe, ce serait quand même beau, tu vois. Ce serait pas de l'enflammade, ce serait un
non, ce serait beau. Et puis il faut pas oublier que le Standard est devenu une équipe de coupe un peu ces dernières années, ne gagnant plus le championnat. Ils ont gagné ces 5 dernières années et on peut vérifier. Deux fois la coupe de Belgique. Donc voilà, c'est une équipe de coupe. Maintenant, pour revenir un tout petit peu plus sérieusement, j'étais un peu déçu personnellement de l'interview de Mbaïlé. Ça fait quelques fois où je ne le suis plus très très bien. Et là, je trouve extrêmement dommage. Il s'est plaint de Moucron en disant qu'il parquait le bus.
C'est
pas la première fois en disant qu'il n'avait fait jouer que 30 minutes effectifs. Mais j'ai envie de lui dire, ce n'est pas un hasard. D'abord, on sait contre qui on joue et une équipe doit pouvoir s'adapter. Ce n'est pas une excuse pour perdre. Et puis, ce n'est pas un match qu'on perd parmi l'autre. C'est pas un accident.
Non,
c'est finalement très cohérent avec le reste du parcours. Et il n'y a pas de raison de s'en plaindre parce que le Standard n'a pas bien joué, mais était finalement sur la même ligne que tous ses précédents matchs. Donc il ne sert absolument à rien, à mon avis, de vouloir accabler l'adversaire, mais de se dire, et il ne l'identifie peut-être pas, je le comprends, mais qu'il y a avant tout un souci avec son matériel. Et ben, il faut identifier quel est son matériel et quel est
Absolument.
Le souci lié à ce matériel.
Mais il avait essayé d'éteindre l'incendie aussi en parlant de matériel, ça lui avait été fort reproché, puis finalement...
Mais se lancer dans une critique de l'adversaire pour justifier finalement une absence de performance qui n'est pas un accident, mais je répète, qui est très cohérent par rapport à l'effondrement général durant tout ce championnat, je trouve pas ça chic, je trouve pas ça classe, et je ne trouve pas que ça le rend crédible non plus.
Non.
Parce que ce qui donne Mbaïlé, on a tous envie de lui dire, c'est un homme crédible, c'est quelqu'un, voilà, tu parlais de Matsu qui fait l'unanimité, Mbaïlé est un peu de cette trempe-là, c'est dommage.
Oui,
c'est,
c'est vrai. Ça écorne un peu son image. Je suis d'accord avec toi.
J'aimerais bien te demander, Steve, ce que t'as pensé du match de Carcella. Parce que pour moi, c'est le genre de joueur qui peut te permettre là de nouveau. Et On tombe assez facilement sur lui parce que c'est lui qui est attendu pour faire la différence. Et là, ce week-end, il a une ou deux occasions. Et
tu parlais de joueur emblématique, c'est lui qui devrait endosser ce rôle-là.
Je trouve que c'est devenu un joueur très ordinaire.
Ben voilà. Et en fait, c'est là-dessus que je voulais t'amener. Pour moi, il est plus le joueur qui permet de faire des différences.
Et c'est pour ça que je maintiens. Je réfléchissais pendant le match. Entre deux petits sommes, de nouveau, comme tous les matchs du standard maintenant. Je réfléchissais, mais qu'est-ce qui se passe avec cette équipe? Je dis souvent dans cette émission, il y a quand même des belles individualités, mais ces individualités jouent tout en dessous de leur niveau. Mm-hmm. Toutes. Il y a de temps en temps Amala qui est celui qui... Alors on le met sur un piédestal tout simplement parce que lui c'est le seul qui apporte un éclair de génie, mais toutes ces individualités, il y a aucun moment on a l'impression qu'un de celles-là va nous faire un éclair de génie ou quelque chose qui va transcender le match. Non, rien.
Il me fait un petit peu penser à l'époque à Denis à Bruges. Je te disais, il traîne son ennui sur le terrain, et Carcella me donne cette même impression actuellement. Bon, c'est vrai que je ne suis pas de manière assidue les matchs du standard, mais chaque fois que je le vois, par rapport à la capacité qu'il a et au talent qu'il possède, j'ai l'impression qu'il traîne son ennui sur ce terrain.
Tu prends l'exemple de Denis. Denis, on savait que lui, il traînait son ennui parce qu'il voulait partir. Mmh, Carcella, il a prolongé là. Hein.
Clairement.
Carcella, il a prolongé.
Moi, j'ai pas le même sentiment que toi, Didier. Tu pars du principe qu'il ne voudrait pas, qu'il s'embête. Moi, j'ai pas l'impression qu'il ne veut pas, j'ai l'impression qu'il ne peut pas.
D'accord.
J'ai mon sentiment est qu'il...
Problème physique, tu penses ?
Oui, il a atteint, il est devenu un joueur qui a perdu un peu son aura, qui a perdu ses qualités, qui a perdu
son
explosivité, et qui devient un joueur qui est peut-être bon dans un 11, mais qui n'est pas celui qui va tirer le 11 vers le haut techniquement, comme on lui demande en principe.
D'accord.
On avait été surpris les dernières semaines par les déclarations de Mbaye sur le matériel. Est-ce que la suite lui donne pas raison?
Mais j'ai plutôt le sentiment qu'on n'arrive pas à mettre ce matériel en hauteur, à le mettre à niveau. Quand je vois ce milieu de terrain, Samuel Bastien, à un moment, on parlait de lui en équipe nationale. Il y a ce jeune Raskin qui avait explosé au départ. Il y a quand même...
Siké, pareil.
Siké, il joue plus bas. Mm-hmm. Mais donc, il y a quand même quelques individualités des Balikwisha.
Siké, il joue plus bas, mais quel donneur d'assist, hein, quel donneur de centre. Hein.
Oui, c'est vrai.
C'est un piston, hein, le gars.
Et je trouve, je ne sais pas, je le répète, ils n'ont pas l'équipe individuelle pour jouer le titre, mais ils ont l'équipe individuelle pour pas être dixième au classement.
Alors, c'est certain. On est bien d'accord.
Et par contre, aucun des deux entraîneurs n'a réussi à trouver la mayonnaise qui permet à ces individualités de se transcender.
Maintenant, il faut laisser le temps au produit. Mbaye, il a pris en marche un bateau qui prenait l'eau, donc il faut d'abord écoper et puis après peut-être reprendre la navigation.
On attend un minimum, pas perdre tous les matchs.
Non, est-ce qu'il n'a pas commencé trop fort et pris confiance, et puis là il perd un peu l'emprise qu'il a sur les résultats, sur les performances?
On peut difficilement lui reprocher d'avoir fait trop fort.
C'est
vrai qu'il avait fait un 15 sur 15,
un 12 sur 12.
12 sur 12, pardon.
Donc,
Henri.
Il avait une certaine emprise. Il avait une certaine emprise sur les événements.
C'est vrai, mais alors il a réussi à transcender justement ce collectif, et on pouvait dire qu'il table là-dessus.
Son discours, je dirais, révélateur de ça, j'ai l'impression. Tu vois, il parle plus de son équipe, ni de son matériel, il parle carrément maintenant de l'adversaire. Oui. C'est une façon, je trouve que c'est un aveu de faiblesse, moi.
Oui, c'est un aveu d'impuissance. Moi, c'est un peu le sentiment que j'avais. Oui.
On verra bien.
Pourtant,
on verra bien qui verra le dernier. Hein,
on a tous un a priori favorable quand il est arrivé au standard.
Normalement, oui.
T1, on était tous.
Oui, en sachant, et d'ailleurs c'était une bourde de communication du directeur général du Standard, en sachant qu'il n'était pas le premier choix, qu'il était le choix de raison.
Tout à fait.
Mais je pense que là maintenant, de toute façon, ils doivent continuer à faire, et en sachant qu'on n'a plus rien espéré pour ce championnat, et tout miser sur un miracle en coupe, parce qu'il faut gagner deux matchs d'affilée, et le Standard, ça fait longtemps qu'ils n'ont plus gagné deux matchs d'affilée.
Hein. C'est vrai aussi. On va voir, suite au prochain épisode. On va passer maintenant à Anderlecht, et la question de Sam. Anderlecht est-il incapable d'enchaîner? Henri, c'est vers toi que je me trouve, que je me tourne.
La réponse est dans les chiffres, oui.
Oui.
Bah oui.
Clairement, mais c'est quoi l'excuse de Vincent cette fois-ci?
Je sais pas, le manque d'efficacité, l'expérience, etc. Mais on ne marque pas, c'est quand même assez flagrant. Là, il a joué avec deux attaquants, on ne marque pas.
Et quand on marque, c'est sur péno aussi.
Sur penalty, ouais, voilà. Diaby apporte quelque chose parce que, tactiquement, ça libère Nemcha. mais ça n'apporte rien de percutant, en tout cas.
Mais là, je parle...
Jusqu'à présent, en tout cas, ça n'a pas encore apporté.
Je vais faire appel à ton expertise, ou à votre expertise. Moi, je le suis nettement moins. Je ne suis pas un trop grand tacticien, je dirais, du foot. Est-ce que, Vincent, le foot proposé par Vincent vous convainc?
Mais
Tactiquement parlant.
Il a changé, hein.
Oui, ben justement, ça fait partie de ma question, parce que
moi, je trouve
the process, et maintenant nous sommes dit other process.
De nouveau, sur papier, c'était convaincant, 4-4-2, pourquoi pas, avec deux attaquants. Je trouve qu'on a déjà assez parlé que Nemecha tout seul devant, ça lui va pas, c'est pas un
attaquant de pointe.
Je le trouvais plutôt pas mal avec un deuxième attaquant, donc dans ce rôle-là, il a fait ce qu'il fallait, mais de nouveau, l'efficacité, quoi, c'est quand même, c'est terrible. On en a parlé en boutade avec les 80 minutes. J'ai dû dire la seule solution pour enrayer ça, c'est d'en marquer plus avant, quoi.
D'accord.
Pareil, la même chose contre Malines. C'est un match qu'ils doivent gagner 20 fois. Mm-hmm. Mais ils marquent que sur pénalty et ils encaissent sur un pénalty.
On a déjà eu ce débat ici aussi, mais il y a un moment, je sais plus quand, c'est Wellenreuther qui veut faire ils veulent jouer à la baballe derrière avec un défenseur, je sais plus qui. Et puis à un moment, il voit qu'il y a des attaquants qui lui foncent dessus et donc il dégage dans les pieds d'un attaquant. Et là, je me suis dit, c'est exactement ce qu'on a dit sur ce plateau maintes et maintes fois. Si t'as pas les joueurs pour jouer à la baballe derrière dans ta surface, tu
ne
dégages.
Bien sûr.
Je vais être un peu dur, mais moi je change pas d'avis sur Wellenreuther. Il a fait un bon match en semaine. Mais c'est un minimum, quoi, quand on veut jouer en direct. Ce qu'il a fait, il a sauvé des goals. Mm-hmm. Ok.
C'est son
rôle.
Bien,
c'est son rôle, quoi. On dit, c'est l'homme du match. C'est plutôt ça qui est inquiétant, c'est que ce soit lui l'homme du match dans une victoire de
club. Très souvent, je vais te dire, on peut faire un parallèle entre les deux clubs que sont le Standard et Anderlecht. Oui, bien sûr.
Ce qui est mauvais signe pour les deux clubs.
Absolument. Ouais. Absolument.
Mais je trouve que Wellenreuther, il a fait un match. Bravo. Enfin, le mec est là pour ça, quoi. Il est professionnel. Il a signé Anderlecht.
Pour répondre à ta question sur Kompany, moi je lui laisse quand même pas mal de crédit parce que il a finalement cette équipe là s'est fait un peu de briques et de brocs, de joueurs achetés, de jeunes qu'il essaie de rendre. Et les résultats sont peut-être pas convaincants, mais je trouve qu'il a quand même créé un groupe. Il a créé une certaine dynamique qui est pas du tout le niveau attendu d'Anderlecht, mais oui, est-ce mais que le noyau côté. Et le niveau attendu, le niveau ça, le individuel truc. Et le niveau attendu d'Anderlecht.
Je pense pas qu'il ait les joueurs pour aller jouer le titre de champion.
Je trouve que pour un jeune entraîneur qui n'a, à mon sens, je le répète, pas le matériel, pour reprendre cette expression maintenant consacrée, suffisant, je trouve pas qu'il a fait un mauvais boulot.
Non, mais alors jusque-là, je n'irai pas. Par contre, je ne peux pas m'empêcher de penser que dans un championnat normal, parce que cette année, elle est vraiment hors norme à tout niveau, je parle pas de Bruges. Bruges est, je vais pas dire au-dessus du lot, mais je veux dire Bruges à part, parce que c'est une équipe normale, j'ai envie de dire, avec un noyau, avec un but.
C'est une équipe stable, quoi.
Voilà, tout à fait. Mais si tu dois jouer un championnat comme les autres championnats, où serait Anderlecht aujourd'hui? On dit toujours tout est pardonné, ils seront en play-off 1, je l'espère pour eux, mais c'est l'arbre qui cache la forêt, mon Dieu. Quand, en termes de football, ils ne méritent pas. Bruges et Anderlecht et le Standard sont au même niveau, quasiment.
On parle de noyau, je regarde le classement. L'équipe qui est devant Anderlecht, c'est Ostende. Je veux dire, on ne peut pas dire qu'ils ont un noyau qui soit qualitativement largement supérieur.
Et eux, ils sont dans le process, hein, parce que ça joue au foot. Hein.
Ça joue, oui, je veux dire. On
peut ça pas... joue ouvert. Hein,
et juste derrière, il y a le Berscott, quoi, qui vient de D1B.
Donc... Oui, avec un gros budget, quand même. Hein.
Oui, et Anderlecht n'avait pas...
Non, mais Anderlecht, cette année, était dans le rouge.
Je parlais des valeurs du noyau,
d'accord.
Du matériel à disposition. Je trouve qu'avec ce qu'il a, il doit faire beaucoup mieux. Quoi. Après, il y a les circonstances. 13 nuls, je l'ai signalé, c'est un record absolu. Quoi. Ça fait... 13 nuls, ça fait que 13 points sur 13 matchs.
En même temps, avec la nouvelle, ça fait 10 ans déjà, mais avec les matchs à 3 points, un nul, c'est quasiment une défaite.
Plus
quoi,
de 10 ans, tu
c'est
sais.
Clair, c'est clair.
Moi, j'ai pas connu le foot sans la victoire à 3 points.
Il a pas connu la victoire à 2
donc
points.
C'est 12 ans.
Eh bien, je tends 3 petits points, mon cher Blaise. Donc, ça nous rajeunit pas tout ça, ma brave dame. Bien.
Tu parles à quelqu'un qui a connu l'Union en division, hein, tu sais déjà.
Et qui a connu les Game Boy et les téléphones à cadran.
Waouh.
Bien. Alors, question de Sam, comment les Brugeois se sont-ils remis de ces deux éliminations en 10 jours? Eh bien Sam, je peux te répondre, en regardant le match contre Zult, plutôt bien. Ils ont eu du mal à le digérer, je pense, parce que bah ça fait mal, parce que les deux défaites ne sont pas méritées de mon point de vue, et ce n'est pas le supporter qui parle, je pense que c'est vraiment le supporter neutre qui parle. Et quand tu vois une saison de foot, quand même, c'est dingue. À 15 centimètres près, même pas, ils jouent la Champions League. Contre la Lazio, et ça, il s'en est fait, ça a frappé la latte. Et puis là, ils prennent, je le disais tout à l'heure dans l'émission, 2 buts en 10 jours et les voilà out d'Europe et de la Coupe de Belgique. Et ils n'encaissent que 2 goals, quoi. C'est quand même surréaliste de voir ça.
Surtout, cette élimination en Europa League leur a fait vraiment mal à la tête.
Bien sûr.
Et du coup, le résultat de cette élimination-là est l'élimination en Coupe.
Mais ils ont pas mal joué. Les deux matchs, ils les ont pas mal joués.
Mais c'est ça le pire, je pense. C'est ça le pire, c'est qu'ils méritent de gagner ces deux matchs et ils les perdent. Et donc, pour eux, ça doit être vraiment horrible comme sensation, quoi.
Tout à fait. Mais moi, je les ai vus jouer. J'ai pas eu l'impression qu'ils avaient pris
ce week-end, il fallait voir le match.
C'était beau, hein.
Confesse de pas avoir tout vu. Mais de ce que j'ai vu, mais quel rouleau compresseur.
Tout à fait.
Honnêtement, le Zult doit être content de ne s'en être pris que quelques
points. Mais clairement,
trois, honnêtement. Mais
ils peuvent remercier Bruges d'avoir eu envie de rentrer avec la balle dans le goal parce que c'était vraiment juste.
Ça tirait de partout. Je ne sais pas les statistiques, tu as vu le nombre de tirs, mais ça tirait de partout tout le temps.
Tout le temps. Tout
et c'est tir d'une force toujours. Parce
et Zult,
toujours...
c'est pas un oiseau pour le chat, il faut le rappeler. Non, c'est quand même Francky Dury qui a toujours.
Ils ont même battu le Standard la semaine passée.
Ça ne veut plus dire grand-chose, malheureusement.
Vous ne trouvez pas qu'on doit faire preuve d'humilité quand on voit nos analyses, etc. On essaie de voir les mêmes matchs. Tu parles de 2 buts encaissés et l'histoire entière du club a changé.
Ils sont humiliés.
C'est le même match. Ils peuvent jouer exactement de la même façon les mêmes occasions, mais ça ne rentre pas. Standard joue contre Moucron qui a 0 tir cadré.
Tout à
gagne.
Fait.
Nos analyses sont...
Et le Standard a tiré combien de fois au but? Parce que je n'ai pas vu les statistiques.
Pas énormément.
Mais voilà, pas assez en tout cas.
Ça, non, c'est un match qui gagne 1-0, on dit bon, peu importe la manière, bon, il y a le résultat.
Non mais Bruges, honnêtement, c'est vrai qu'on s'est posé la question. Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer? Ils avaient faim. Hein.
Ben oui,
ils avaient faim hier.
Bien sûr.
C'est ça qui m'a impressionné.
Mais ils avaient faim, Philippe Clément est de retour. C'est pas facile de jouer Kiev quand tu n'as pas ton coach sur le banc, parce que c'est quand même un coach emblématique, on peut dire ce qu'on veut, mais il est là, il insuffle une énergie vraiment incroyable. Tu joues à Kiev, ils ont fait un résultat magnifique avec une demi-équipe, hein, parce que les absents, c'était la colonne vertébrale, c'était des gros cadres. Après, tu joues le Standard en coupe, et on dit toujours qu'un match de coupe, ça reste un match de coupe, et où il y en a certains qui rentrent de maladie, entre guillemets, ou en tout cas de Covid positivité. On sait qu'il y en a certains qui sont fatigués, demandez à Mignolet, parce que la première fois qu'il a été positif, il l'a dit lui-même, c'est après ça qu'il a commis ses 2 ou 3 bourdes, il a mis ça pas sur le compte du Covid, parce qu'il est gentleman pour ça, mais il n'était pas
de
dedans.
De sa prépa physique.
Voilà, ça doit pas être évident à gérer. Donc voilà, mais je les ai trouvés plutôt bien et rassurants quand je les ai vus jouer contre Zult. C'est jamais évident parce que c'est aussi un derby, hein, il faut pas oublier que Zult est à une 15aine de kilomètres de Bruges, c'est Waregem. Donc ce sont des matchs qui ne sont jamais gagnés à l'avance, hein, clairement. Et puis Zult restait sur une belle série aussi, je pense.
Ils viennent de faire une remontée fantastique au classement.
Absolument, hein. Absolument.
Et du coup, on n'a pas d'explication pour Badji qui sort à la 30e minute.
Non, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé.
C'est super alors, bizarre quand même.
Je me suis demandé...
Parce qu'en plus, il marque juste avant, si je ne me trompe pas.
Oui, mais alors, d'après ce que Marc Delire disait pendant le commentaire, il disait qu'il avait vu Philippe Clément s'en prendre à Badji plusieurs fois parce qu'il ne respectait pas les consignes. Alors, est-ce que c'est punitif? Après, quand il est sorti, j'ai vu Philippe Clément le prendre et lui parler. Il n'avait pas l'air spécialement fâché.
Oui, c'est ça.
Il faut savoir que Bruges a une semaine incroyable. Ils jouent leurs 2 matchs cette semaine. Donc, ils vont jouer à la fois Charleroi et Gand, qui ont tous faim à la fois de foot et surtout de points. Donc, ça ne va pas être 2 matchs faciles, loin s'en faut. Ils ont le noyau pour, normalement, oui, bien sûr. Alors que je me suis demandé si ce n'était pas justement pour faire un turnover. Enfin, tu ne changes pas quelqu'un après une demi-heure,
non,
si ce n'est pour un pépin.
Surtout
physique,
si c'est un jeune joueur et tout, c'est horrible pour son mental.
La seule fois que j'ai vu faire un entraîneur changer un joueur avant la mi-temps, hors blessure. Ça a été Georges Lekens. J'étais à Paris en 98 Coupe du Monde quand il a sorti Crasson.
C'est ça.
Après 20 minutes parce
pour de Flandre. Pour de Flandre.
Overmars, je ne sais plus pour qui, mais Overmars le rendait dingue. Il ne voyait pas un cuir, quoi, le gars. Il est.
Oui, mais Overmars faisait le match de sa vie et Crasson, la pointe de vitesse, a jamais été totalement son truc.
Non, mais.
Et ça, c'était vraiment dur.
Mais.
En coupe du Monde.
Oui, je me rappelle. Mais tout le monde.
On peut dire ce qu'on veut, Lekens et Lekens, mais il fallait en avoir pour sortir le joueur et il l'a fait à bon escient.
Et de Flandre a fait un excellent match.
Oui, tout à fait.
Je voulais revenir sur André en termes de coaching. Il a fait échauffer très belle pendant 20 minutes. Et puis il a dit remettre sur le banc.
Bah, oui, bah, écoute, le gars, il touche son chèque fin de mois. Il faut bien qu'il transpire un peu. Finalement.
Donc, c'est pas parce qu'il y a eu un blessé à ce moment-là et qu'il a préféré faire rentrer Eladj. Il y a eu quelque chose comme ça.
Mais non, c'était avant. Oui, il a fait rentrer Eladj à gauche. Mais je sais pas,
c'est bizarre ce qui se passe par
la gestion
moment.
Sur Trebel est étonnante, on va dire.
La gestion n'est pas très belle, justement. Bien, alors, on va le dire. Ah oui, excusez-moi, on ne se refait pas. Henri, si tu nous écoutes, désolé pour ce mot d'humour un peu stupide. 21h10, ce que je vous propose, c'est la journée internationale des femmes. On va quitter la 30e
journée.
Des droits des femmes, attention. Et Sam nous avait concocté un petit quelque chose. Je vous propose de l'écouter. Les femmes à l'honneur. Et donc, si vous avez envie d'aller boire le thé, allez-y, parce que moi, je suis au taf. Alors, c'était aujourd'hui, vous le savez, la Journée internationale des droits des femmes, et Samuel a choisi de nous parler, en cette année de Jeux olympiques, de ces grandes figures sportives féminines qui ont marqué l'histoire des Jeux olympiques modernes.
Vous savez peut-être, Didier, que la renaissance des Jeux olympiques modernes date de 1896. Mais sachez que lors de cette première édition, les femmes ne sont pas invitées à participer. C'est à Paris en 1900 que quelques femmes prennent part pour la première fois aux compétitions sportives olympiques. Mais les épreuves sont peu nombreuses et assez peu exposées. Il n'empêche, la Britannique Charlotte Cooper demeurera à jamais la première championne olympique, avec sa victoire dans l'épreuve de tennis. Mais la progression du sport féminin va néanmoins s'avérer lente en ce début de XXe siècle. Le nombre de femmes par Olympiade ne dépasse guère la vingtaine, même si quelques sports supplémentaires sont ajoutés ça et là, comme la natation, le plongeon et le patinage artistique. Ces sports sont acceptés car aux yeux du CIO du baron Pierre de Coubertin, ils sont compatibles avec l'image traditionnelle de la femme gracieuse. En fait, la véritable entrée des femmes dans le sport olympique va avoir lieu lors des JO d'Amsterdam en 1928 et elle résulta d'un long et laborieux travail réalisé auprès des instances internationales par une femme, Alice Milia. Pratiquant modestement l'aviron, Alice Milia va rapidement devenir l'une des ambassadrices du sport féminin au niveau européen. Dès 1919, elle demande d'inclure le sport féminin au sens large au programme des Jeux Olympiques. Mais cette demande est rejetée par le CIO qui juge les compétitions féminines inintéressantes, inesthétiques et incorrectes. Alors en 1921, Alice Milia décide d'organiser un meeting d'éducation physique féminin international à Monte-Carlo, meeting auquel participent 5 pays. Devant le succès rencontré, elle crée la Fédération sportive féminine internationale qui participe à l'organisation de Jeux mondiaux féminins qui se tiendront en alternance avec les Jeux olympiques. La première édition a lieu en 1922 à Paris et va rencontrer un franc succès. Plus de 20 000 personnes se pressant pour voir les athlètes de 5 pays venus s'affronter au cours de 11 compétitions sportives. Consciente de l'engouement qu'a suscité cette manifestation, la Fédération internationale d'athlétisme va alors s'impliquer dans la mise en place de compétitions athlétiques féminines. Ce long travail aboutit en 1928 à l'apparition lors des Jeux Olympiques d'Amsterdam d'épreuves olympiques féminines d'athlétisme et de gymnastique. On compte cette année-là près de 290 participantes sur un contingent de 2800 athlètes olympiques.
Et après nous avoir retracé l'histoire du sport féminin aux Jeux Olympiques, vous allez maintenant, Sam, nous parler de quelques championnes qui ont marqué les Jeux Olympiques de leur talent.
Vous savez Didier, j'ai pour habitude de toujours commencer par le meilleur, de peur sans doute de ne pas avoir le temps de tout terminer. Alors je ne dérangerai pas à ma règle en vous parlant d'emblée de celle qui incarne sans doute le mieux la perfection olympique, Nadia Comaneci. Nous sommes à Montréal en 1976 et celle que l'on ne surnomme pas encore la petite fée de Montréal n'a que 14 ans et 8 mois. Elle va subjuguer le public montréalais au cours d'un programme quasiment parfait. Aux barres asymétriques, elle obtient pour la première fois de l'histoire des Jeux Olympiques la note maximale de 10 sur 10. Une telle perfection paraissait tellement impossible que le programme informatique qui affichait les notes s'en trouva bloqué, affichant la note de 1.00. Il allait pourtant devoir s'y habituer car l'ange Nadia offrit l'absolue sublimité à 6 autres reprises lors de ces jeux, provoquant le délire enthousiaste de tous, y compris de ses propres adversaires et même des juges. Elle remporta la médaille d'or au concours général, aux barres asymétriques et à la poutre, la médaille d'argent au classement par équipe et enfin la médaille de bronze aux exercices au sol, montant ainsi sur 5 des 6 podiums possibles. Si la suite de sa carrière et de sa vie fut plus compliquée dans la Roumanie de Ceaușescu, elle restera pour l'éternité cet oiseau gracieux qui semblait délivrer des lois de la pesanteur et qui inspira des millions de jeunes filles de par le monde. Des gymnases, passons maintenant à la piste où coururent deux des plus grandes championnes de l'histoire. La première était néerlandaise et fut surnommée la ménagère volante. Elle s'appelait Fanny Blankerskoen. Spécialiste du 800 mètres en début de carrière, elle participe aux Jeux Olympiques de 36 à Berlin. Si elle ne remporte pas de médaille, elle y rencontre Jesse Owens qui lui offre un autographe et sera pour elle une source d'inspiration tout au long de sa carrière. Alors que la guerre semble avoir gâché ses meilleures années, elle a 30 ans et deux enfants lorsqu'elle se présente en 48 aux Jeux Olympiques de Londres, pleine d'espoir. C'est là qu'elle va alors se révéler aux yeux du monde entier en remportant 4 médailles d'or sur 100 mètres, 200 mètres, 4 fois 100 mètres et 80 mètres haies, faisant taire les sceptiques qui pensaient qu'une mère de famille n'avait rien à faire sur la piste. Elle est élue en 1999 plus grande athlète du XXe siècle aux côtés de Carl Lewis chez les hommes. La deuxième athlète que j'aimerais évoquer est l'américaine Wilma Rudolph. Cette formidable sprinteuse à la foulée déliée et au buste léger éclaboussa les Jeux Olympiques de toute sa classe au cours d'un été romain qui fut le sien. Tout le monde, en 1960, eut le coup de foudre pour cette jeune femme de 20 ans qui remporta alors sur 100 mètres, 200 mètres et 4 fois 100 mètres. Aujourd'hui encore, elle est considérée comme l'athlète ayant ouvert la voie aux jeunes sportives noires, chez qui elle suscita l'intérêt pour le sport de haut niveau et pour l'athlétisme en particulier. Enfin, j'aimerais pour terminer plonger dans les bassins olympiques pour y retrouver Dawn Fraser, la nageuse australienne considérée comme la plus grande nageuse de l'histoire. Médaillée d'or sur 100 mètres en 56 et en 60, elle réussit également l'exploit de conserver à nouveau son titre en 64, devenant alors la première nageuse à gagner une épreuve 3 fois consécutivement.
Et enfin, vous souhaitiez terminer, Sam, par l'évocation d'une championne qui n'a, elle, pas encore marqué son sport, mais pourrait le faire le 31 juillet prochain dans le port de plaisance d'Enoshima. Elle est israélienne et pratique la planche à voile.
Elle s'appelle Cathy Spichakov. Elle est née à Eilat et aura seulement 22 ans, une semaine après la finale olympique de planche à voile. Débordante d'énergie, elle est très tôt mise au sport par des parents qui ne cesseront de la suivre dans son évolution sportive. À 4 ans, elle débute la gymnastique rythmique et à 6 ans, elle pratique le triathlon. À 10 ans, elle ajoute à son programme la planche à voile, mais elle doit rapidement faire un choix, car ses semaines sont surchargées de sessions d'entraînement. Elle va choisir la planche, discipline dans laquelle elle démontre des aptitudes impressionnantes et ne va pas regretter son choix. Elle commence les compétitions internationales dès ses 14 ans et en 2015, à 16 ans, elle devient déjà championne du monde de sa catégorie d'âge. 2019 sera une année charnière pour celle dont on loue l'éthique de travail, la volonté et la faculté à bien cerner ses objectifs. Elle remporte de nombreuses médailles sur les circuits mondiaux avant l'apothéose au championnat du monde de Torbole en Italie, d'où elle rentre avec la médaille d'argent de la catégorie senior et l'or chez les moins de 21 ans. Quelques semaines après ces résultats éclate pourtant une affaire, celle de sa liaison avec le coach de l'équipe nationale, le français Pierre Loquet. Affaire qui va créer des remous dans le monde de la planche à voile israélienne, certaines coéquipières estimant qu'elle a été privilégiée du fait de cette liaison. Pierre Loquet écarté de l'équipe nationale, Spichakov va néanmoins relever le défi de se montrer la meilleure de toutes les véliplanchistes israéliennes en terminant deuxième des championnats d'Europe 2020. Cette place lui permet ainsi d'assurer définitivement son ticket pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Alors, si tout se passe pour le mieux pour elle, Cathy Spichakov pourrait devenir le 31 juillet prochain la toute première sportive israélienne à remporter une médaille d'or olympique et rejoindrait en cela Gal Friedman, le seul sportif israélien à avoir jusqu'à aujourd'hui remporté l'or olympique. C'était en 2004, à Athènes, et déjà dans l'épreuve de planche à voile.
Et voilà, suite et fin de toutes ces aventures, ce sera en juillet prochain lors des Jeux Olympiques, si tout va bien et si le Covid le permet. Vous êtes toujours dans Joue la prolongation, il nous reste 12 minutes à passer ensemble. On va d'abord se pencher sur la Champions League, bien sûr. Et sur le gros suspense de cette Champions League cette année. Le PSG va-t-il vaincre le Cygne indien? Ta-ta-ta! C'est bien parti quand même pour 1-4 si je, ou 2 comme
1-4. S'ils n'y arrivent pas une deuxième fois, franchement, s'ils se font remonter une deuxième fois, ce serait quand même...
Il serait bien d'aller voir des vaudous dingue. Alors justement.
Ouais. Non, mais là, c'est encore pire hein, parce que c'est pas du 0-3 et non, ils sont toujours qualifiés.
Ouais, hein, ouais, ouais, ouais. Non. C'est, franchement, s'ils n'arrivent pas à passer, je pense qu'ici, on serait tous les premiers choqués.
Moi, j'aime bien Leonardo bouffer son chapeau. Hein. S'ils n'y arrivent pas, là, il n'en peut plus.
Ouais, Sam, si tu nous écoutes, je pense que tu peux dormir tranquille. Ouais, en principe, rendez-vous en quart.
En plus, Gérard Piqué s'est reblessé ce week-end. Bon, il n'avait pas fait un très bon match à l'aller, mais c'est quand même une grosse perte pour le Barça. Donc, non, moi, je n'y crois pas une seule seconde.
Ils ont encore fait sortir une perle de 18 ans, là.
Ouais, j'ai pas son nom, mais.
J'ai compté
comme d'hab, le Barça. Hein. Le Barça, ils sortent toujours des gars, des prépubères. Ouais,
ça va être intéressant. Et... Puis alors, il y a aussi Liverpool-Leipzig, avec Liverpool qui est en ballotage favorable, mais qui a perdu ses six derniers matchs à domicile. Donc, voilà, ils ont...
Ouais, et Leipzig, parce qu'en fait, je ne sais même pas si on sait où ça va se jouer, parce que...
C'est
de nouveau à Budapest, le match ?
Je pense bien.
Okay, bah, mais Leipzig est super fort en ce moment, et Liverpool, comme tu l'as dit, si défaite à domicile...
Mais d'un autre côté, Liverpool, d'abord, ce ne sera pas du vrai domicile, déjà. Ouais. Et ensuite, ils n'ont plus que ça. Hein, parce que là, oui, ils sont complètement largués dans la Première Ligue.
Mais je me demande à quel point ils vont être capables de se remettre la tête à l'envers pour ce match-ci, justement. Parce que là, je crois que les gars sont... ont le moral dans les chaussettes, quoi.
Bah oui, mais...
Je crois qu'il y a moyen de se motiver. Hein.
Bah, je pense.
Ah oui, ouais. Moi, ils passeront. Ils passeront.
En plus, la Champions League, c'est un objectif avoué. C'est pas quelque chose qui se découvre au fil du temps. Liverpool, chaque année, c'est sur les trois fronts qu'ils y vont. Donc, en principe, ils vont jouer comme des morts de faim. Dortmund-Séville. Le Borussia emmené par Haaland, mais qui s'est blessé ce week-end aux ischios, si j'ai bien été informé. Donc, jouera pas. On verra bien. Il s'est blessé ce week-end contre le Bayern, justement, parce qu'il y a eu plein de toppers tout champion. On a confondu parce qu'on va quitter maintenant la Champions League puisque y a plus grand chose qui nous intéresse. On sait que le PSG va se qualifier. On suppose que Liverpool est en ballotage favorable, Dortmund également, Juventus, Porto.
Les deux derniers matchs, moi j'irais pas aussi, je serais pas aussi confiant que ça et pour la Juve et pour Dortmund. Je pense que Séville va passer, par exemple.
Dortmund a fait un mauvais score. Hein, ouais, ouais. Match aller, c'est 3-2.
Ouais, ouais. Je pense que Séville va passer, moi. Et puis bon, pour l'autre,
ça vaudra la peine d'être vécu, en tout cas. Et donc, on va survoler les toppers dans les différents championnats européens, parmi lesquels, on l'évoquait à l'instant. Enfin, je commençais à l'évoquer, le Bayern de Munich, qui est irrésistible ces jours-ci, avec un Robert Lewandowski stratosphérique. Et puis Haaland aussi, Borussia.
C'était Haaland contre Lewandowski en fait ce match.
Ouais, mais c'est
impressionnant.
Les vieux lâchent pas l'affaire. Hein. Ouais. Ils cèdent pas leur place aux jeunes.
Mais j'ai entendu, je sais plus qui disait. Est-ce que alors vraiment, c'est pas du tout parce que je suis supporter que je dis, mais est-ce que Bruges n'est pas le Bayern de Belgique? Alors franchement, toute humilité gardée, non, parce que quand tu vois le Bayern jouer, il y a encore.
Quel est le point de comparaison, l'histoire,
Rouleau compresseur. Le rouleau compresseur, l'équipe à battre, le.
Parce que s'ils tiennent sur la longueur, comme ils sont en train de faire.
Voilà, exactement.
Ils sont en train de mettre en place des choses, ils prennent de l'avance à tous les niveaux sur le football belge. Ils peuvent devenir effectivement.
Je suis d'accord avec Henri, parce que le Bayern, ça, c'est sûr, de nombreuses années.
Quelle machine, mais quelle. Bah,
déjà l'année passée, et puis cette année, ça confirme.
Mais tu sais quoi,
je pense qu'il n'y a rien qui se fait de mieux, en fait, maintenant. Sauf accident, ils doivent tout gagner.
Et même quand le Bayern a une période de doute, entre guillemets, de creux, ça dure un ou deux ans grand maximum, quoi. Et c'est terminer deuxième du championnat, c'est pas être sixième.
Ah non, mais c'est impressionnant. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais Lewandowski, ça fait tellement d'années que j'entends parler de lui, j'ai l'impression qu'il a 92 ans. Quoi. Franchement, c'est impressionnant. Ouais, il a des stats de malade. Ouais,
je vais jeter un pavé dans la mare, mais j'estime déjà l'année dernière, il aurait dû l'avoir, mais si cette année, il n'a pas le Ballon d'Or, c'est un scandale. Bon, j'estime personnellement. Parce que...
Et tu écriras une lettre.
Et j'écrirai une lettre et je ferai en sorte que ça se passe.
Mais est-ce qu'il crée comme Messi crée ou comme Ronaldo crée? C'est non, ça mais la vraie question.
Attends,
probablement.
Ça fait 10 ans que le mec fait, il fait 35 clairement. Buts par saison et qu'il a été lésé par la présence de Cristiano et de Messi. Donc, je comprends
toi.
Ton point de vue, mais à un moment, il faut quand même récompenser les joueurs comme d'accord. lui. Quoi.
Et dans un style sans en avoir l'air.
Bien sûr, c'est ça. On dirait que c'est un bûcheron alors que pas du tout. Quoi.
Ah non, voilà. Non,
et puis il le mérite vraiment. Mmh. Il le mérite vraiment, pas seulement pour toute sa carrière, mais pour là
pour
maintenant.
La saison dernière.
Et en sachant que Messi et CR7 ont quand même traîné la patte à leur façon, quoi.
Ouais, donc, ouais. Ouais, ils sont qu'à 20 buts, quoi.
Oui, c'est ça. À leur façon, c'est en effet, c'est peut-être bien l'année.
En Bundesliga, il est à 31 buts.
Ouais, c'est
le suivant, c'est André Silva du Francfort.
Et en combien de matchs? Parce que c'est ça, il est à plus d'un but par match, je pense.
La différence avec les autres, il y a Haaland.
Dans le micro.
Haaland et Silva qui sont à 19 buts. Et lui, il en a 31.
Ah, bah oui, mais oui. Mais c'est...
Et ça dure depuis 5 ans, quoi.
Ah, ouais. Alors, on change de sport, mille sabords. On va en Espagne, où il y avait un intéressant Atlético Real Madrid. Et ça a fait les affaires du Barça, puisque c'est 1-1 le score final. L'Atlético qui a mené très très longtemps avant d'être rejoint grâce à l'irremplaçable et l'inamovible Karim Benzema, bien sûr.
Il fait quasi tout seul. Il incroyable. Prend la balle au milieu du terrain et incroyable. Puis il a juste un 1-2 devant la surface. Mais sinon.
Et gros match de Courtois, hein, qui ne peut rien faire sur le goal de Diego Costa, mais sinon.
Et qui en arrête deux super dur à aller chercher.
Oui, il se retrouve deux fois en 2-2.
C'est ça, ouais. C'est ça. Ouais.
Bah, j'ai envie de dire, en même temps, c'est récurrent, hein, Courtois. Je pense que ce sera aussi s'il y avait un ballon d'or spécial gardien, il serait dans.
Il y a, j'ai oublié le trophée.
La Viachine, oui.
Ouais,
je sais pas si vous avez vu les déclarations de Thibaut Courtois après le match ou aujourd'hui, je pense. Lukaku a été élu meilleur joueur belge à l'étranger. Et ça n'a pas du tout été du goût de Courtois qui a dit qu'il s'estimait beaucoup plus reconnu en Espagne qu'en Belgique.
Il a un problème d'ego, ouais. Hein, il a un souci. Hein.
Bah, en général.
Mais bon, on lui pardonne tout parce que c'est quand même.
Bien sûr.
C'est quand même le meilleur gardien mondial.
That is on the Thibaut. Bien, alors une question puisque je vous dis on va un peu plus vite. Alors, championnat d'Espagne, Atlético ou pas Atlético cette année?
Ah, j'aurais dit Atlético, mais là le Barça fait une remontée fantastique.
Bah, hein. Si l'Atlético gagne son match en retard, puisqu'il a un match de moins, ils auront
5 points d'avance sur le Real Madrid. 6 points.
6 points, je crois qu'ils ont 3 points maintenant sur Barcelone. 2 ou 3, je ne sais pas, Henri, tu peux vérifier. Mais je pense que ils auront 6 points d'avance sur Barcelone.
Moi, je pense que ce sera le Real.
Le Real, moi je pense que, enfin j'espère, surtout que ce sera Barcelone.
Ils ont actuellement 3 points d'avance.
Ouais, donc ils auront 6
points d'avance. Et ils ont un match en
retard. Donc moi j'espère que ce sera
la dynamique est un peu plus pro Barcelone. Hein.
Oui.
Ils ont un nouveau président maintenant. Hein, donc,
L'autre est sous les barreaux finalement où il était libéré.
Je pense qu'il est sorti, mais ça va pas tarder.
Je suis pas bien les affaires judiciaires.
C'est pas un gage parce que Marseille a un nouveau président aussi.
Oui, c'est vrai aussi. Tu as remarqué Blaise qu'on n'a pas parlé de Marseille finalement.
Est-ce qu'on parlera un peu de la Coupe de France?
On n'a pas le temps. Il faut qu'on termine. Il reste 4 minutes et donc on va parler si vous le voulez bien un petit instant de la Première Ligue avec, je n'oublie pas City contre United, mais on va revenir avec Tottenham et on va parler de Chelsea. Chelsea invaincu depuis l'arrivée de Tuchel, mea culpa, moi j'ai jamais adoré cet entraîneur, mais force est de constater qu'il fait quand même du bon taf. Tottenham qui a cartonné avec 2 doublés, Harry Kane et Gareth Bale.
Mais en fait Tottenham, après leur descente aux enfers, est en train de remonter sérieusement et ça coïncide avec la vraie intégration de Gareth Bale.
Ouais,
c'est impressionnant. Et je pense qu'on en parlait la semaine dernière de ce joueur, mais c'est impressionnant. Déjà en Coupe, en Europa League et maintenant en championnat, il met 2 doublés venus de nulle part.
C'est rappelé qu'il était un joueur de foot et que finalement il a fait ses plus belles armes à Tottenham. Ouais. Alors, réel,
oui. Tottenham n'a plus que 20 points de retard.
Oui. Maintenant, faut savoir que Chelsea n'a toujours pas perdu. Hein. Ils ont battu 2-0 à Everton, contre Everton. 2-0. Donc, chapeau à Tuchel. Hein. Ça doit lui faire du bien d'être dans une équipe qui gagne et avec moins de pression qu'il en avait au PSG. Et on reste et on va terminer avec cela en Angleterre avec bien sûr le derby que tout le monde attendait avec impatience. C'était Man City contre Man United. United et qui a vu la victoire surprenante, de mon point de vue en tout cas, de United, 0-2 en plus, score sans appel, on dira, alors que, et on vous évoquait ça tout à l'heure...
Hors antenne, parce qu'hors antenne, on parle foot encore.
Oui, et que City avait des stats de malade.
Ouais. Et pourtant, c'est un peu l'histoire de Manchester United depuis que Solskjaer est là, c'est juste la ils sont létales, quoi. Ça joue pas très bien, mais s'il faut marquer un but, ils vont le marquer, et au final, ils gagnent.
Ouais, ils sont quand même encore loin. Alors, ouais. D'après vous, est-ce que le championnat est relancé en Angleterre ou
Je pense qu'il est fait.
Même avec le match d'hier, cette équipe a l'air tellement sûre d'elle et a l'air de surclasser toutes les autres équipes. Je pense que... je dis cette équipe, je parle de Manchester City, évidemment.
Et puis, KDB, qu'est-ce qu'on a fait d'aller le vendre, ce gars-là? Il aurait quand même pu rester à Genk, merde.
Lui continue à faire des assists, après les autres marquent ou marquent pas, mais lui, il fait des assists.
Et juste avant qu'on ne se sépare, parce que c'est l'heure, sachez qu'à l'heure actuelle, après 41 minutes de jeu, puisqu'on joue en Italie également, l'Inter, face à l'Atalanta, qui est une très très belle affiche, c'est toujours 0-0. Donc Lukaku n'a pas encore fait parler la poudre.
Et la Gantoise vient de marquer contre Stand.
Ça y est.
C'est bon pour nous. Je dis nous, c'est mes amis et moi.
On a compris.
Bon les copains, c'était un vrai bonheur. Enfin, il nous a manqué quand même la touche de Sam Touch. Mais ça, on le retrouvera, je l'espère, la semaine prochaine, bien évidemment. Puisque il est... dans 30 secondes, il sera 21h30. J'ai été ravi d'être avec vous, vraiment. C'était cool.
Plaisir partagé.
Et quelle joie d'écouter Fitch et Mazou.
Ça, franchement. Et on va le podcaster, bien évidemment. Et vous pourrez retrouver, amis auditeurs et tristes, cet entretien que nous avons eu avec Fitch et Mazou en début d'émission demain.